Donc aujourd'hui, on a le plaisir pour ce cinquième séminaire, le grand plaisir d'accueillir Vinciane Defray et Pablo Servigne. Alors Vinciane est philosophe, mais également psychologue, et elle travaille depuis de nombreuses années sur le comportement animal et mène une réflexion qu'elle a inscrite dans de nombreux livres, que je ne vais pas citer tous ici car je ne me souviens pas de tous les noms, mais qui sont très intéressants sur vraiment cette dynamique entre le monde animal, ce qu'il peut nous enseigner sur effectivement la concurrence, la collaboration et plein d'autres choses. Pablo, lui, est un chercheur en écologie et il est associé à l'ULB, chercheur associé à l'ULB. Alors tous les deux ont préparé en fait là vraiment de manière très collaborative une présentation sur bien sûr le thème qui nous occupe aujourd'hui et qu'on a déjà commencé à aborder lors de précédents séminaires sur ce que peut nous apprendre la nature, le vivant, quant au comportement concurrentiel, collaboratif. Je leur cède tout de suite la parole. Vinciane, Pablo, à vous.
Merci. Alors, on n'a pas prévu que Laurent nous présente, donc on avait prévu de se présenter nous-mêmes. On va se présenter en plus, mais on ne va pas dire la même chose que Laurent, ça tombe bien. Et donc, on a décidé de se présenter d'abord parce que nous ne nous connaissons pas avant cette rencontre, avant que l'occasion de la rencontre ne soit suscitée, et elle nous a donné l'occasion de coopérer ensemble. Et donc, plutôt que de nous présenter chacun par des traits particuliers, nous avons décidé de nous présenter de manière coopérative en essayant de voir ce que nous avions en commun.
Alors nous avons un enfant en commun. Je ne peux pas dire qu'on l'a fait ensemble.
Et alors, on a tous les deux un doctorat à l'université, ce qui ne veut pas dire non plus qu'on l'a fait ensemble.
On fréquente assez régulièrement le centre historique de Liège.
Voilà, on a tous les deux aimé Kropotkin et particulièrement le livre sur l'enfer.
Et on a fait des études d'éthologie, mais ça n'est pas notre métier principal.
Et peut-être dernier point, mais on aurait pu en inventer quantité d'autres, c'est le fait que nous pensons tous deux, expérience à l'appui, que l'étude de la coopération est beaucoup plus intéressante que l'étude de la compétition et que les animaux qui se comportent de manière coopérative sont souvent beaucoup plus intéressants d'un point de vue épistémologique notamment que les animaux qui se comportent de manière très compétitive. Alors on a prévu donc une série d'exemples dans le monde du vivant qu'on va vous présenter à tour de rôle. Moi je vais m'occuper plutôt des bêtes.
Ouais, moi plutôt des plantes.
Voilà, alors on va commencer donc par les vers.
Tu commences ? Mais je m'assois. Je viens de faire du vélo
Alors le premier exemple, en fait, c'est un exemple assez court, mais qui m'avait profondément marqué quand je l'avais lu, c'est un exemple récent. Il n'est pas récent, l'expérience est ancienne, mais c'est un exemple que j'ai découvert récemment. Moi, j'étudiais les questions que j'ai étudiées pour mon tout dernier bouquin. Savoir s'il existe de la justice dans les animaux, le sentiment de la justice. Et donc, je suis allée chercher dans toutes les expériences qui ont été menées, et il y en a quelques-unes de très jolies, sur savoir comment est-ce que les animaux transactionnent, notamment avec les chercheurs ou entre eux, et qu'est-ce qui pourrait révéler le sentiment de justice. Alors, je ne vais pas refaire tout le sentiment de justice, quoique le sujet soit passionnant et dans le débat, là, je pourrais vous en donner, parce que je suis ravie de tout ce que j'ai pu trouver. Avec l'écologie, je suis un peu comme l'enfant sur la plage. Regarde vraiment le beau coquillage, quoi. Je suis toute contente de trouver des travaux passionnants. Et l'exemple qui me semble le plus pertinent, mais qui est surtout le premier, ou en tout cas le tout premier, où clairement la notion de justice va être évoquée. Je peux vous citer d'autres exemples, d'autres expériences, où on pense, on peut interpréter, nous, aujourd'hui, en revisitant les expériences, que les animaux déjà manifestaient dans ces expériences un sentiment de justice ou d'injustice. Mais c'était plutôt à l'égard de ce qui leur arrivait à eux. Alors que la question de la justice, pour moi, apparaît le plus clairement dans une expérience de Jules Masserman, en 1964, qui est un psychologue, qui va soumettre des singes à l'épreuve suivante. En fait, ce sont des macaques rhésus, donc ce n'est pas des chimpanzés dont on pourrait déjà attendre une grande évolution de l'empathie, etc. On est donc encore avec ce qu'on appelle des singes à queue, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aussi sophistiqués d'un point de vue social, en tout cas d'un autre point de vue à nous, que les chimpanzés ou que les bonobos, que les gorilles ou que les orang-outans. Et Jules Masserman va conditionner les singes dans une première expérience. Alors il les met dans une cage et ce qu'on appelle en conditionnement, donc le singe va apprendre à associer des stimuli avec des réponses, avec des récompenses suivant ses réponses. Et en fait, le singe apprend à quand une lumière bleue s'allume qu'il doit tirer sur une chaîne, quand une lumière rouge s'allume qu'il doit tirer sur une autre chaîne, et s'il tire sur la bonne chaîne, il reçoit de la nourriture. Et une fois qu'il est bien conditionné et qu'il a bien appris cela, on le met dans une autre cage. Et la cage est séparée en deux, et c'est une vitre sans teint qui sépare les deux compartiments de la cage. Et ce singe qui a appris à se nourrir en tirant sur des chaînes va se trouver confronté avec un congénère qui est de l'autre côté du miroir sans teint, et lui voit le congénère, mais le congénère ne le voit pas. Et il constate que s'il tire sur la chaîne qui donne de la nourriture, le congénère reçoit un choc électrique en même temps. Et qu'est-ce qu'on observe après quelques essais d'expérimentation ? Que certains singes vont éviter, et la plupart des singes vont éviter de tirer sur la chaîne pour éviter à leur congénère d'avoir un choc électrique, et certains même iront très loin dans le fait d'être affamés en n'osant plus tirer sur la chaîne. Et Jules Masserman tirera des conclusions, ne parlera pas de justice à ce moment-là, mais quand on les revisite aujourd'hui, les auteurs n'hésitent pas à utiliser ce concept. Il va parler d'altruisme dans la nature, mot qu'il mettra encore entre guillemets, parce que dans les années 60, on mettait encore des guillemets pour parler d'altruisme dans le monde animal, et il dira en fait qu'en tout cas, les animaux manifestent des comportements protecteurs les uns vis-à-vis des autres. Il fera l'hypothèse que ces comportements protecteurs, s'ils se trouvent chez les macaques rhésus, doivent certainement se trouver dans d'autres règles et dans d'autres espèces, et il va faire l'hypothèse que chez les rats, qui sont quand même les plus faciles à expérimenter, et ils vont l'expérimenter avec les rats, et ils vont constater des années plus tard que les rats auront les mêmes réactions, c'est-à-dire qu'ils évitent de se nourrir si ça peut procurer un choc électrique à leur congénère. Pablo ? C'est la deuxième expérience.
Oui. Alors moi, je vais parler des plantes. Ça peut paraître bizarre pour les éthologues de parler de plantes, mais c'était un peu pour rebondir avec l'enfer. Et pour montrer aussi que la coopération, elle se trouve dans tout le monde vivant. Et au-delà du règne animal dans les autres pays. Et alors, je vais vous parler des plantes alpines. Cet exemple m'intéressait pour la raison suivante, c'est qu'on voit les scientifiques à un moment changer de paradigme. Alors, je vais expliquer. Les plantes cohabitent souvent dans une forêt, il y a plusieurs espèces de plantes ensemble, et elles se nourrissent, elles ont besoin de ressources. D'eau, de lumière, de nutriments. Et les racines puissent dans le sol et les feuilles puissent la lumière. Et parfois, il y a une compétition, enfin souvent même, il y a une compétition entre les plantes pour l'accès à ces ressources. Parce que là, ça va. C'est une hypothèse qu'un botaniste célèbre, Sibel Grine, a énoncée. Et depuis, la compétition, beaucoup d'expériences ont montré cette hypothèse, que la compétition structure les communautés végétales. C'est-à-dire que les plantes les plus fréquentes vont être celles qui vont avoir le plus facilement accès aux ressources. Et donc la compétition a structuré, en quelque sorte, l'étude des botanistes. Et à un moment, il y a eu des doutes. Il y a eu des doutes déjà au début du siècle, en 1916, je crois, 1909 déjà, 16 et en 1929. Plus tard, en 1945, en 1958, c'est des petites expériences qui montrent que ça ne marche pas, cette hypothèse ne marche pas. Et on la laisse de côté, on publie pas la fois. Et à un moment, en 1958, juste pour l'anecdote, Ellison et Houston, deux chercheurs américains, remarquent que la productivité de la strate herbacée, de tout ce qui est plante, est supérieure sous les peupliers qu'en plein soleil. Bon, petit indice, ça colle pas avec les hypothèses traditionnelles. Et puis, de fil en aiguille, à un moment, en 1995, vraiment beaucoup de temps après, un certain Ralph Calloway, un chercheur en Montana, décide à prendre le problème à bras-le-corps. Alors, il fait une série d'expériences et il pose l'hypothèse qu'il appellera plant facilitation. Il ne parle pas de coopération, il parle de facilitation. Et alors, pour lui, il pose l'hypothèse inverse, c'est-à-dire que sur un gradient de stress, plus les conditions deviennent difficiles, plus les plantes vont coopérer, plus il va y avoir de facilitation. Ça peut paraître contradictoire, mais il part de faits observés. Et il a fait plusieurs expériences sur différentes espèces de plantes. Une expérience assez remarquable, c'est sur les deux espèces Pinus et Abies, donc le pin et le sapin. Et il remarque que sur un gradient dans une vallée et une montagne et un versant, vas-y. En bas, les conditions dites low stress, sans stress. Donc le stress pour les plantes, c'est juste des conditions difficiles. Et donc en condition low stress, le sapin est réparti de manière plus ou moins aléatoire. Et plus on monte dans le versant, plus les conditions deviennent difficiles. Et en condition high stress, stress fort, la distribution, il a vu des photos aériennes, en fait, la distribution des sapins se trouve autour des pins. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'un pin meurt en bas, en position de haut stress, eh bien, la productivité des sapins augmente. Alors qu'en haut, lorsqu'un pin meurt, la productivité de ceux qui sont autour diminue. Et donc, il a montré par un gradient, qu'un gradient de stress, plus il y a un stress, plus les espèces, entre les espèces, les plantes, on va dire, s'entraident, enfin, coopèrent. Alors, je voulais juste peut-être vous poser une question. Est-ce que vous avez une idée de quels mécanismes peuvent être à l'origine de cette coopération entre plantes? Ça peut paraître bizarre. Je vais faire appel à votre imagination. Je sais qu'il y en a qui peuvent répondre ici.
Qu'est-ce que ça s'appelle mécanisme?
Comment ça se fait que les mécanismes, c'est les... Je ne sais pas, au niveau des procédés physiologiques.
Voilà, c'est ça que tu veux dire. Comment s'y prennent-elles? C'est ça que je veux dire, oui.
Est-ce que vous avez une idée? Comment des plantes peuvent s'entraider?
Par les racines.
Oui. Par exemple, en condition de stress, en condition de veine difficile, dans le froid, par exemple, le vent, voilà, ça peut faire tampon. Si on se rassemble, et là, on fait tampon par rapport à une forte condition de vent, de froid, de salinité. Ça peut être aussi des plantes qui vont chercher l'eau et qui la ramènent plus en surface pour d'autres. Voilà, il y a toute une série de mécanismes qui font que les plantes peuvent s'entraider. Mais toujours sans rejeter complètement la compétition. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Calloway remarque que cette hypothèse, elle n'est pas validée partout dans tous les cas. Et suivant les stades de la vie des plantes, suivant les espèces, suivant la densité des plantes, la physiologie des plantes, suivant les interactions indirectes avec des parasites ou avec d'autres plantes, on passe d'une hypothèse à l'autre, de la compétition à la facilitation. Donc ça devient de plus en plus complexe, jusqu'à une étude en 2002 dans la revue Nature, qui est assez intéressant parce que donc toujours Calloway et son équipe font une étude synthétique sur 11 sites dans le monde avec 115 espèces de plantes différentes et 8 à 12 répétitions. Donc c'est vraiment un design d'expérience très solide. Et alors ils mesurent la biomasse, la production de biomasse des plantes, toujours dans ce gradient low stress, high stress, la croissance des feuilles et la reproduction des plantes. Et ils montrent qu'en low stress, il y a toujours compétition entre les plantes, sauf 2 sites sur 11 où il y a un petit peu de facilitation. Et dans tous les sites, dans les 11 sites high stress, il y a à chaque fois facilitation. Et dans les 2 sites où il y avait un peu de facilitation, il y a plus de facilitation. Donc l'hypothèse est confirmée sur les 11 sites partout dans le monde. C'est pour ça que c'est publié dans Nature. Et donc, c'est un exemple intéressant qui m'a marqué. J'ai trouvé ça une très belle expérience, une très belle série d'expériences qui montre que les scientifiques peuvent changer de paradis, qu'il y a un rapport étroit entre compétition et coopération et que ce n'est pas blanc ou noir.
Et je vais vous parler de, désolée pour ceux qui m'ont déjà entendu sur ce sujet, mais je vais vous parler d'une primatologue, une primatologue que j'admire particulièrement pour son talent de primatologue, qui est admiré dans le monde de la primatologie. C'est un nom qui est quasiment vénéré par les autres primatologues. Elle a une septantaine d'années maintenant, elle est retraitée. Et elle a étudié des primates pendant toute sa carrière. Donc elle a fait sa thèse, elle s'appelle Thelma Roel, elle a fait sa thèse sur le système de reproduction, les hormones des hamsters dorés, dans les années 50, début des années 60. Puis une fois qu'elle a eu sa thèse de doctorat à Cambridge. Elle a brillamment réussi. Elle a d'ailleurs été invitée à la Société zoologique de Londres et des choses comme ça, des choses très prestigieuses. Et puis elle a décidé de partir. Elle a commencé à étudier des singes en captivité, là toujours dans à Cambridge. Et puis son mari est parti en Ouganda et elle a décidé de l'accompagner et d'obtenir une bourse pour faire de la recherche sur les babouins. Donc elle s'est lancée dans une recherche sur les babouins et pendant des années, elle a étudié les babouins en Ouganda, jusqu'à la fin des années 60, début des années 70, elle est restée là-bas à faire des études comparatives entre les babouins de la forêt et les babouins en captivité. Et puis elle est rentrée en Angleterre, elle a continué en Angleterre, puis elle a eu un poste à Berkeley aux États-Unis, où elle est professeure toute sa vie, et elle a continué toute sa vie à étudier des singes bleus, des macaques, des vervettes, des babouins, bref, elle a à peu près fait tout le continent africain à la recherche de singes. Et depuis quelques années, en fait, elle a changé d'animal. Elle observe un autre animal, et elle n'habite plus à Berkeley, elle est revenue en Angleterre, mais elle habite maintenant dans une petite bourgade qui s'appelle près de Ingleton, près de la mer des Landes, tout au nord de l'Angleterre. Et là-bas, elle a une petite maison, et puis en face de sa petite maison, il y a une prairie, elle observe des animaux dans la prairie. Et les animaux qu'elle observe, en fait, sont extrêmement intéressants, une fois qu'elle les a observés. Et en fait, ces observations lui ont permis de décider que ces animaux-là étaient sophistiqués du point de vue social, n'avaient pas grand-chose à envier aux chimpanzés par rapport à la sophistication sociale, et notamment qu'il y a des mécanismes d'amitié, des mécanismes de coordination, que les hiérarchies sont beaucoup plus compliquées que ce qu'on avait envisagé dans les premiers modèles, c'est-à-dire que ce n'est pas une hiérarchie linéaire et rigide avec un dominant et puis un bêta, etc., etc. Mais qu'au contraire, il n'y a pas de contraintes comme on l'imagine dans le système de hiérarchie, c'est-à-dire que chacun peut éventuellement se proposer pour conduire la troupe, que les mâles et les femelles ont des vies relativement séparées, sauf à l'époque de octobre, novembre, où ça s'agite un petit peu, vous devinez les raisons pour lesquelles ça s'agite. Là, il y a des belles bagarres, etc. En fait, tout le monde s'amuse beaucoup. Et puis, surtout, elle a découvert quelque chose dont on n'imaginait pas du tout que ça pourrait exister en dehors de chez les chimpanzés à cette époque-là. Donc, on est dans les années 80. Elle a découvert qu'ils avaient présentaient des mécanismes de réconciliation. Et que donc, dans les bagarres, brutalement, ils pouvaient s'arrêter, se réconcilier et recommencer à se battre. Et elle a même découvert qu'il y avait même des mécanismes qui étaient mis en place qui sont des mécanismes de pré-réconciliation. Avant une bagarre, on fait un rituel d'apaisement qui consiste à se frotter les joues ou le front l'un contre l'autre et puis on tape dedans. Et elle dit Et alors donc, mais qu'est-ce que ça pourrait bien être que de se frotter le front et les joues et des choses comme ça, et de faire des mécanismes de pré-réconciliation, comme si, disait-elle, il se disait, écoute, je vais devoir faire ce que je vais faire, je n'ai pas le choix, mais on est amis. Qu'est-ce que ça pourrait être comme animaux? C'est tout ça, évidemment. Monsieur Galétique, c'est des
cochons.
Ça pourrait être des cochons. Les cochons sont très, très doués d'un point de vue social, mais n'ont pas encore été étudiés aussi bien. On leur a posé plutôt des questions s'ils savaient mentir. On leur pose plutôt des questions cognitives aux cochons pour le moment. Sont-ils menteurs et des choses comme ça? C'est visiblement plutôt les sujets de recherche.
Les chèvres?
On est très près. Et à mon avis, les chèvres pourraient faire des trucs pareils. Ce sont des moutons. Mais ça, c'est beaucoup moins prévisible parce que qu'est-ce qu'on dit du mouton, généralement? Que c'est con. Le mouton, c'est con. D'ailleurs, on dit en anglais chi-pi-chi. Il y en a un qui fait une connerie, tous les autres vont suivre, ils sont capables de se jeter dans le marbre, etc., etc. Alors, avant de vous expliquer ce qui a décidé cette parole à passer comme du sage aux moutons, je vous assure que c'est un pack du style grand écart. Observez les moutons, je l'ai fait avec elles, je vous assure, c'est du coup, être vraiment accompagné de quelqu'un qui vous raconte des histoires. Ça a beaucoup dit que c'est très intéressant, c'est un peu lent. Je vais d'abord vous dire quelque chose et vous poser une petite énigme qui va permettre de construire mon propos. Tous les matins, la chercheuse se lève, je l'ai accompagnée sur le terrain, et vers 5h30, on est au mois de juin, à peu près à ce moment-là, quand je suis allée avec elle. Et en fait, donc, le terrain, c'est, on est à sa maison, puis il y a une toute petite route sur laquelle personne ne passe jamais, et puis il y a une toute grande prairie, vraiment immense, entourée de murs de pierre, comme on trouve dans cette région, Mais au bas de cette prairie, il y a une grande zone, à peu près de la grandeur de, du jardin qui est dehors. Voilà, imaginez qu'avant la prairie, il y a une espèce de zone plus ou moins herbacée, mais l'herbe finalement pas, avec une clôture. Une clôture devant, une clôture derrière. Donc une partie qui est séparée de la prairie. Et tous les matins, elle se rend dans cette partie-là. Elle prend des bols, elle dépose les bols par terre et elle met des céréales dedans. Et en fait, elle va nous donner un petit déjeuner à ses moutons pour commencer la journée. Alors, la raison du petit déjeuner, je peux vous le dire, c'est que ce sont des moutons, c'est une race sauvage, assez sauvage. Voilà, il n'y a que des éleveurs qui apprécient leurs moutons parce qu'ils sont un peu ingérables du point de vue de la domestication. Ce sont des moutons qu'on appelle des sowies. Je ne pense pas que ça se traduit parce qu'en français, il y en a dans le jardin. Si vous voulez voir les sowies, des moutons sowies, il faut aller dans le jardin de l'ENS à Lyon, qui est un super magnifique jardin créé par Gilles Clément. Et il y a un parc avec des moutons qui entretiennent tout le jardin. Et c'est un parc qui est visitable dans l'école nationale, dans l'école normale supérieure de Lyon, du côté lettres. Alors, ces moutons sont assez sauvages, donc les approcher pour elles, c'est pas évident, donc elle les observe jamais. Mais si elle veut voir s'il n'y a pas quelque chose qui, si quelque chose ne va pas chez les moutons, il y a intérêt à s'approcher un peu plus près. Donc c'est une façon de les faire venir à elle. Donc c'est presque une pratique d'habituation par l'alimentation, d'approvisionnement, en fait. Et la deuxième raison, c'est qu'elle dit, ben, comme je les observe de moi, il y a de temps en temps, j'aime bien le voir certains comportements de plus près, qui est avec qui, etc. Donc ça lui permet pendant une demi-heure d'observer ces moutons de très près. Mais il y a une particularité, c'est la monomie. Celle-là, elle a 22 moutons. Et elle va distribuer, elle va mettre 23 bols par terre. Pour qui est le 23e bol?
Je crois
que moi,
pour voir comment elles vont se comporter pour le dernier bol.
Pour le dernier bol, c'est une hypothèse. Et quel serait l'intérêt de voir comment elles... Quelles seraient les questions qu'on pourrait... Parce que là, il faut se mettre dans la peau, dans cette vie. Quelle est la question qu'on pourrait poser par rapport à votre dernier? À quelle question pourrait-il correspondre?
Si
on ne partage pas, oui, tout à fait.
C'est un dominant qui a droit à plus.
C'est un dominant qui a droit à plus, tout à fait. Très juste aussi comme hypothèse. Ce n'est pas tout à fait celle-là, mais on est à très loin de l'hypothèse.
C'est le procédure d'allocation.
Voilà. Ça, il est bien compliqué, ça, c'est très politisé. Mais vous n'avez pas tort, ce serait des hypothèses qui pourraient être envisagées. Et tant qu'on ne leur pose pas la question, c'est parce qu'ils ne sont pas capables d'y répondre. Donc, tant qu'on n'a pas posé la question, on ne peut pas savoir si le mouton n'est pas capable d'y répondre. Et c'est exactement le problème avec les moutons. Et c'est d'ailleurs tout le motif de la recherche de Thelma Roel. Donc là, je vous donne maintenant, avant d'expliciter l'énigme, c'est que Thelma Roel dit, quand on dit le mouton est con et le chimpanzé est très intelligent, on n'a pas le droit de le dire. C'est un scandale hiérarchique qui est fondé sur une faute épistémologique. Et quelle est la faute épistémologique? Vous ne pouvez pas comparer deux êtres si vous n'avez pas posé la même question aux deux. Vous ne pouvez pas comparer deux individus si vous n'avez pas fait faire exactement la même prouesse ou la même performance. Et qu'est-ce qu'on a posé aux chimpanzés comme question jusqu'à présent? On leur a demandé, vous, socialement sophistiqués, donc un, avez-vous des amis, puisque c'est la première marque de la sophistication sociale, puis deux, êtes-vous capable de faire la différence entre l'ami proche, l'ami éloigné, etc. Trois, êtes-vous capable de créer des alliances, de les restaurer, de les construire et de les entretenir? Quatre, êtes-vous capable de vous réconcilier? Êtes-vous capable d'empathie? Et on va continuer dans la sophistication sociale. Et au point de vue cognitif, on a demandé aux chimpanzés qui restent très liés à ces questions sociales, êtes-vous capable d'avoir conscience de vous-même? Et oui, on répondait aux chimpanzés, hein, on leur a fait le test du miroir. Et puis, êtes-vous capable de savoir que ce qu'il y a dans la tête des autres, c'est différent de ce qu'il y a dans la vôtre propre? Qui est un des mécanismes qui fonde et la coopération et l'empathie. Donc, il faut pouvoir se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre, comme disent les Anglais. Et les chimpanzés ont répondu oui, notamment avec l'épreuve du mensonge. C'est-à-dire que s'ils sont capables de mentir, comme quoi les pires vices amènent au chemin de la plus grande vertu, s'ils sont capables de mensonge, ça veut dire qu'ils sont capables de coopération sociale, puisqu'ils sont capables de penser ce que les autres pensent. Et ce n'est pas la même chose que c'est dans leur tête. Si vous mentez, ça veut dire que vous savez qu'il y a une croyance dans la tête de l'autre, ce n'est pas la même chose que dans la vôtre propre. Et les chimpanzés mentent très bien, ce sont d'ailleurs des experts en manipulation sociale. Bref, toujours est-il qu'on a posé toutes ces questions aux chimpanzés, et on les a posées graduellement, parce que chaque fois que le chimpanzé disait oui à une question, répondait positivement, ben on essayait un cran plus loin. Et qu'est-ce qu'on a posé comme question aux moutons? Eh bien, on leur a posé, alors je vais le dire très vite, on leur a demandé comment ils convertissent de l'herbe en gigot. Ça résume les recherches sur les moutons. rares sont les recherches qui ont posé d'autres questions. En général, la recherche sur les moutons, c'est on a appris hein, autant étant autant de céréales, autant étant verbes, on les a donnés aux moutons, et puis ils ont pris autant de kilos, et voilà, et voilà, et voilà. Et donc, les moutons sont interrogés sur des choses qui nous intéressent beaucoup, c'est-à-dire que nous allons les manger, comment les faire manger pour que nous puissions en manger plus. Alors, que parole va-t-on dire ? On ne peut pas comparer les chimpanzés et les moutons tant qu'on n'a pas posé les questions aux moutons qu'on pose aux chimpanzés. Et donc, elle va prendre un éthogramme de chimpanzés, les questions qu'on pose avec les chimpanzés, c'est-à-dire, première question, est-ce que vous avez des amis ? Deuxième question. Et elle va donc réunir un troupeau et les observer en les laissant d'abord un tout longtemps le temps de se fabriquer des amis. Parce que les recherches qui avaient dit les moutons n'ont pas d'amis, ce sont des recherches où vous avez acheté un troupeau de droite et de gauche. C'était mis dans le troupeau directement. Ils disent, les moutons n'ont pas d'amis, forcément. Vous réunissez des gens qui soient pour la première fois. À moins de leur donner beaucoup d'alcool, il n'y aura pas beaucoup d'amis. Directement, dès la première heure, les alliances vont mettre du temps à s'installer, etc. Et elles ne sont pas très stables. Donc voilà la recherche de Thelma-Wells. Donc ce 23e bol est dans la perspective de cette recherche. Mais avant d'y venir, quand on pose la question à Thelma-Wells, voilà ce qu'elle répond. Je lui dis, mais pourquoi ? Elle m'avait expliqué qu'elle mettait 23 bols, mais comme je sais compter, c'est très compliqué. Et elle me répond, c'est pour éviter la compétition. Alors là, je me suis dit, tiens, mais moi qui avais quand même un peu travaillé sur la question des liens et des émissions de la politique dans l'histoire naturelle, je me suis dit, c'est quand même une drôle d'affaire qu'un chercheur dise comme ça délibérément, moi la compétition, j'aime pas trop ça, c'est comme ça que je pouvais le comprendre. Et je me suis dit, mais est-ce que j'aurais affaire à une chercheuse de type Kropotkin, c'est-à-dire une chercheuse, alors je parle de Kropotkin, qui est un auteur que nous aimons tous les deux, qui est un naturaliste de la fin du 19e et début du 20e, qui a écrit L'entraide, un facteur de l'évolution, qui a été publié en 1904, pour la première fois, si mes souvenirs sont bons, en langue française, en 1902. Ah oui, de deux ans. En 1902, et qui est une longue réponse à Darwin, et surtout aux héritiers les plus zélés de Darwin, c'est-à-dire ceux qui avaient élevé la compétition au rang de principe majeur de la sélection naturelle. Et ce que Kropotkin va écrire, c'est « La compétition n'est pas le seul facteur de l'évolution, l'entraide est un facteur tout aussi puissant. » Le problème, c'est que Kropotkin, jusqu'à ce que Stephen Gould finalement le réhabilite du côté des histoires de l'histoire naturelle, c'est qu'on a toujours dit « Bon, d'accord, c'est un naturaliste, mais c'est un anarchiste aussi, qui revendiquait très fortement ses idées politiques, qui a d'ailleurs été en exil » et qui a été assez et donc on a toujours dit, ben, quand Kropotkin dit les animaux préfèrent s'entraider, je ne vois pas la compétition, hein, c'est comme ça qu'il commence son texte sur l'entraide, nous n'avons pas vu mon ami Poliakov et moi-même en nous promenant dans les plaines de Sibérie, la compétition que la lecture de Darwin nous avait préparé à trouver. On a dit, c'est un peu bizarre quand même que Kropotkin, anarchiste, essayant de fonder dans la nature les principes d'une société égalitaire, les êtres seraient forcément solidaires, et bien c'est quand même un peu étrange, donc c'est suspect. Notez bien que si on prenait cette position-là, on pouvait tout aussi bien reprendre un vieux texte de Marx qui n'était pas sans suspicion lui-même à l'égard de Darwin et qui écrivait dans une lettre à Engels très très jolie, il disait ben, je m'étonne quand même que chez Darwin je trouve des similitudes donc surprenantes entre les sociétés des animaux et des plantes et sa propre société anglaise, avec sa division du travail, sa concurrence, ses ouvertures de nouveaux marchés, ses inventions et sa malthusienne lutte pour la vie. Donc on aurait pu aussi finalement reprocher à Darwin, mais Darwin, on ne lui a pas reproché, visiblement, et les raisons pour lesquelles on a reproché à Darwin et pas à Kropotkin mériteraient qu'on s'y arrête. Nous ne le ferons pas même, on pourrait le faire dans la discussion, savoir quels sont les autres motifs. La théorie de Darwin était évidemment très élégante et puis elle permettait d'expliquer plein de phénomènes qui étaient explicables autrement. Moi, je demandais à Dieu d'intervenir presque ponctuellement à chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire. Alors, les éthologistes eux-mêmes plaisantent d'ailleurs à cet égard, ils ne sont pas du tout contre cette idée. Hein, quand je dis, bon, ben, attention, il y a toujours un peu d'immigration politique dans la nature, dans la façon dont vous allez les dire. Il y a des éthologistes qui l'ont dit, et c'est une boutade qui règne chez les éthologistes, où ils disent très clairement, en fait, vous savez, sous les gouvernements de gauche, les animaux sont plutôt coopératifs, sous les gouvernements de droite, ils sont plutôt compétitifs. Et le fait qu'elle, pardon, elle-même l'a sorti en disant, mais quand c'était Madame Thatcher qui était au pouvoir avec son idée stupide qu'une société, ça n'existe pas, parce que Madame Thatcher était persuadée que l'idée même de société, c'est un espèce d'accident qui n'aurait pas dû se produire, eh bien, tous les éthologistes étaient compétition, 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 c'est ça qui les intéressait. Donc, on pourrait penser que Thelma Noël est influencée par des idées politiques, et elle le dit à un moment clairement dans l'interview qu'elle a consacrée, c'est Madame Thatcher, l'éthologie était triste. Et c'est bien dommage. Et elle va d'ailleurs dire, c'est intéressant, mais attention, ce n'était pas que politique. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la compétition chez la plupart des animaux qu'on observait? Parce que les choses principales qu'on observait, c'était comment ils se nourrissent, comment est-ce qu'ils se comportent autour de la nourriture. Donc c'est pas tellement ce qui est le message, c'est pas tellement ce qui intéresse. Enfin, ça intéresse dans des plans au Brésil, parce que la question est plutôt des questions de conservation qui animent les recherches, mais plutôt comment ils se comportent autour de la nourriture. Donc, et autour de la nourriture, si la nourriture n'est pas abondante, est-ce qu'elle est distribuée de certaines façons, c'est-à-dire que tout est rassemblé, si les animaux doivent se nourrir sur des petits rassemblements de nourriture, la compétition devient évidemment très intense. Et c'est là où les chercheurs observent, parce que quand la nourriture est très distribuée, ben la troupe se sépare, les chercheurs n'observent plus une troupe, donc ils n'observent pas les interactions sociales, donc ça ne les intéresse pas. Donc, où vont aller les chercheurs? Mais là où la nourriture est rassemblée. Donc vous voyez qu'on est déjà dans un biais simplement, parce que ce qu'on veut poser comme question, c'est-à-dire la socialité, on est obligé de la poser dans des circonstances qui impriment la marque de la concurrence de la socialité. Mais ce que Thelma Noël dit aussi, c'est, et c'est dommage qu'on se soit tellement focalisé sur la nourriture, parce que le moment où les animaux sont les plus solidaires, en général, parce qu'ils sont les plus solidaires autour de la nourriture, on peut partager la chasse, ce qu'on les chimpanzés, etc. Mais les moments où on est plus solidaire, c'est face à la question du prédateur. Or, dit-elle, les actes de prédation, les chercheurs les observent très peu. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on observe la nourriture et pas la prédation? Pas parce que la prédation est plus rare, que le fait de se trouver quand même un peu comme un petit problème. La nourriture, simplement, on observe les animaux qui se nourrissent parce que c'est facile. Ils sont obligés de le faire, ils le font de manière visible parce qu'ils ne choisissent pas l'endroit où ils le font, alors que l'accouplement, par exemple, c'est un peu plus compliqué. Il y a des autres activités où les animaux sont plus discrets, où c'est plus rare. C'est facile, c'est souvent dans des endroits où les chercheurs savent où ils vont trouver leurs animaux. Et donc, ce sont des observations qui sont faciles à faire. Pourquoi est-ce qu'on observe pas la prédation? Pas parce que c'est seulement rare, parce que c'est d'autant plus rare que le chercheur est là. Parce que quand les chercheurs sont près de leurs animaux, les prédateurs ont peur, ils ne viennent pas. Et donc, en fait, on peut faire d'ailleurs un constat, c'est que les groupes qui sont observés de très près, la démographie très souvent augmente durant la durée de l'observation. Et dit-elle d'ailleurs, ce que nous appelons habituation avec les animaux, le fait qu'on croit qu'ils nous laissent simplement nous approcher parce qu'ils sont devenus indifférents à notre présence, c'est ce que nous croyons, nous chercheurs. C'est eux qui ont compris que quand on était là, au bout de quelques temps, et en fait, c'est un deal que nous passons ensemble. Je regarde, mais on protège. Et c'est joli, elle raconte par exemple que quand elle observait des petits singes bleus qui vivent en haut des arbres, à un moment donné, ils entendaient des aigles. Alors tous les chercheurs qui étaient sur le terrain, hop, avec les jumelles, puis les aigles partaient bien vite en ayant trouvé. Parce qu'ils voient très très bien que les singes étaient accompagnés par des chaperons qui allaient s'occuper d'eux. Alors donc, Thelma Noël, je vous ai mis sur le paysage. Alors le 23 novembre, ça pourrait être en partie pris politique, mais ça ne l'est pas. Vous voyez bien ce que je vous dis, c'est que dans ce que je viens de raconter, elle fait attention, peut-être qu'il y a une influence politique qui nous encourage à voir certaines choses plutôt que d'autres, mais la condition même du terrain va imprimer, et les questions qu'on pose vont imprimer le comportement des animaux. On voit plus d'alimentation parce qu'il y a moins de prédation, etc. Alors le 23e bol, c'est pour éviter la compétition, mais elle ne l'évite pas. Ce qui est intéressant, alors là, on se rapproche d'une des hypothèses qui a été faite. C'est que ce 23e vol, en fait, n'a pas du tout empêché la compétition, mais il va ne pas la contraindre. Et ça fait toute la différence. Si vous mettez un vol et vous dites à vos moutons, allez-y les gars, on y va, ben, forcément qu'il y a de la compétition. Alors, ça veut dire quoi? Tout ce que vous pourrez dire, c'est les moutons sont compétitifs, mais vous ne pourrez rien savoir de plus. Si vous mettez 23 bols et qu'il y a un mouton qui mange et puis qu'il y a un autre mouton qui s'amène alors qu'il a la même chose dans son mouton et qu'il bouscule,
explique, mais pourquoi il fait ça? Ce n'est pas parce qu'il a faim, parce qu'ils n'ont pas besoin de s'espérer à l'heure. Ça veut dire qu'il est en train de faire quelque chose de type relationnel. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire ça? Si le deuxième mouton se laisse pas faire, ça prend une quantité de choses pour la relation de ces deux moutons-là. Si, au moment où ils sont en train de se rapprocher, ils s'esquivent, ça veut dire que le rapport de force est extrêmement puissant, parce qu'on considère que quand un animal évite la confrontation, c'est reconnaître à l'autre que les choses sont bien installées. Et si un mouton est en train de manger, que l'autre vient bouscule un peu, mais qu'il reste manger tous les deux, vous pouvez vous dire, tiens, là on a des amis. Ce qui veut dire que la compétition existe quand même, on la voit, hein, ils sont pas doux les uns avec les autres nécessairement, ils se bousculent et des choses comme ça, mais vous apprenez quantité de choses parce que cette compétition vous permet de poser des questions. Et elle vous permet de faire des hypothèses sur ce qui est en train de se passer. Et donc, ce n'est pas du tout une compétition enragée, etc. C'est une compétition, je ne suis pas du tout en train de plaider en défaveur de la compétition, c'est une compétition qui n'est pas stressante, qui ne met pas en jeu des enjeux vitaux, et ça, les moutons le savent, c'est des mois et des années qui sont nourris de cette manière-là, donc ils savent très très bien ce qui arrive, ils ont bien assez à manger dans la prairie, et il n'y a aucun souci avec ça. C'est simplement une compétition qui permet aux moutons tout le temps de se faire passer des messages relationnels. Voilà qui je suis, voilà qui tu es, voilà où en est notre relation. Et en fait, ce 23e bol, ça c'est un... J'avais écrit un texte là-dessus, Donna Haraway l'avait relu, et c'est une philosophe américaine avec laquelle je travaille de temps en temps, et elle m'avait dit, en fait, le 23e bol, c'est le bol qui ouvre à la surprise. Parce que c'est le bol qui permet aux moutons d'être non pas des moutons prévisibles, mais des moutons surprenants, et des moutons qui ont le choix d'utiliser la compétition, non plus bêtement, mais de faire de la compétition un enjeu stratégique de relation.
Je trouvais
qu'il en fallait
un de plus, parce qu'avec
22,
ça suffisait aussi.
Si tu en as 23, si tu en as un de plus, mmh. Et bien alors tu es sûr à ce moment-là que non seulement il y en a assez pour tout le monde, et si il y en a un qui n'est pas content avec son bol, il y en a toujours un autre ailleurs. Donc c'est pour augmenter, on aurait pu mettre 24.
Oui, on a 3 plus. Ouais.
Oh, 3 plus, c'est très bien, mais c'est une anglaise. Ouais. On est toujours dans la sobriété, et ça tombe dans les lieux économiques, si je peux me permettre.
C'est pas sur un de plus, mais le 1 de plus.
Non, le 1 de plus, c'est juste, c'est l'ouverture, et c'est ça qui est intéressant. Vous savez, mon mari travaille par exemple dans des cliniques où ils permettent à des intrus de venir, c'est-à-dire à des gens qui ne sont pas des professionnels, de venir assister à la consultation clinique, c'est-à-dire des cliniques de concertation. Eh bien, il dit, un intrus, c'est lui qui met sous tension le dispositif. Donc, un seul suffit à mettre le dispositif sous tension, puisque sa présence questionne, doit-on être professionnel pour assister à une clinique psychiatrique, ou une clinique de santé mentale, plutôt. Et donc, un, c'est ça qui met sous tension la limite entre, d'une certaine manière, le nombre et l'ouverture du nombre à tous les nombres possibles. Un, c'est l'ouverture vers l'infini.
Je dirais. Ça pourrait aussi stimuler les autres moutons à faire manger plus vite parce qu'ils voient qu'il y a un courant qui reste. Ou sinon, on pourrait regarder spatialement où est-ce que ça reste celui qui est vide pour voir s'il y a des groupes, comme vous disiez, ou d'autres dispositions.
Peut-être aussi. Il est possible aussi que ce vol unique, plutôt que 10 vols, suscite une forme de. La possibilité d'une forme de compétition, mais qui est non contrainte. Elle est. Proposer et non imposer. Peut-être comme ça qu'on pourrait dire.
Qu'est-ce qui se passe sur ce vol supplémentaire? Ils vont tous après ou ils se passent?
Non, ils n'arrêtent pas de bouger entre les vols. Donc les moutons, ils n'arrêtent pas de bouger. C'est extrêmement relationnel. C'est très joli à voir. C'est vraiment très relationnel. Donc par exemple, ils arrivent tous pour leur petit vol, etc. Ils vont se mettre à manger dans leur petit vol et puis ils regardent. Puis ils vont à côté, et en fait, c'est une espèce de chaise musicale.
Alors là, moi, je fais une autre hypothèse d'ingénieur, on va dire. Hein, c'est que si vous avez 22 animaux et 22 vols et qui bougent tout le temps, il est certain que le système est tendu.
Mais
si vous rajoutez une, deux ou trois unités, vous donnez simplement de la fluidité au système.
C'est ça. Ça pourrait être une hypothèse avec laquelle je suis d'accord. En disant que ce n'est pas mécanique parce qu'avec des animaux pensant et sentant, c'est jamais mécanique.
Mais vous mettez des êtres humains et mon raisonnement tient sûrement. Donc c'est juste pour dire que, parce que physiquement, vous prenez la mécanique des fluides,
oui.
Et vous prenez les 22 êtres qui se déplacent, si vous voulez, il y a dans le système quelque chose qui les reprenez, c'est la même chose que l'embouteillage, hein, les 22 voitures, elles ne se déplacent pas toutes en même temps. Donc nécessairement, il y a quelque chose qui se passe là de presque physique, je dirais, qui, indépendamment de la substance qu'on peut donner aux choses, implique que de rajouter un bol permet de neutraliser, je dirais, l'inertie comme ça du système qui est en
train. Je pense que simplement, c'est ce qu'on a. Oui, ça donne un degré de liberté qu'on peut.
Mais là, si vous mettez du sens, moi je mets zéro sens.
Oui.
Nous sommes comme ça parce que.
Mais de toute façon, même si vous dites que c'est un principe physique,
oui.
Il va être de toute façon réintroduit dans un univers de sens. C'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de le mettre, mais je suis d'accord. Il y a un principe physique.
Cette couche-là.
Voilà, cette couche-là est présente, mais elle est toujours introduite dans un univers de sens et elle ne peut pas en être détachable. Mais elle est présente quand même.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que les moutons en font.
Tout à fait.
C'est de voir le jeu relationnel, les interactions qu'ils ont entre eux, qu'il y en ait 22, 23, 24.
Oui.
C'est ça, une des questions, en fait, que je voulais souligner, c'est les interactions des moutons entre eux.
Tout à fait.
Parce que la différence avec même un cadre embouteillage, c'est que là, ça ne va pas mécaniquement. Quand il y a de la place devant vous, vous avancez. Mais là, le mouton, s'il veut aller sur le vol suivant, mais que l'autre mouton ne veut pas, ou que c'est pas son copain, ou qu'il est plus haut, etc., ça bloque. Donc, ce n'est pas juste de la circulation.
Il y a un modèle mécanique, parce que si vous êtes le mouton qui est à côté du bol qui se fait à manger, à un certain moment, vous voyez que le bol à côté. À plus de choses qui sont les vôtres, et alors vous passez au bol qui est plus rempli. Et du coup, celui qui était à côté de vous, donc, voit votre bol qui n'est plus mangé, donc après, à un certain temps, il y aura comme une certaine limite, et l'autre voit que l'autre bol n'a plus de choses et se jette dessus. Donc on pouvait faire un modèle mécanique.
On peut faire un modèle mécanique.
C'est intéressant de comparer le modèle mécanique avec le modèle.
Alors, je dirais deux choses. D'abord, le modèle mécanique, je ne m'y oppose pas du tout. Je dis simplement, il est toujours réintégré dans un univers de sens. Et même le modèle de l'embouteillage, moi je me dis, mais en fait, moi je suis de temps en temps des embouteillages, pas très souvent, mais je réalise que si les imbéciles de la file d'à côté ne profitaient pas du trou pour venir s'y mettre, je ne serais pas aussi attentive à avancer. Et donc peut-être que les embouteillages, ils sont pas, c'est jamais une file, c'est une file en rapport avec une autre file qui ne suit pas nécessairement les mêmes règles que la première file. Et donc même si c'est mécanique, il y a déjà du sens et du caractère, et de la rapérie, de la mauvaise humeur, et de la suspicion, et de la parano qui viennent s'y mettre. Donc même ça, une fois qu'il y a une tête d'humain quelque part, je pense qu'on est cuit. Qu'un modèle le purement mécanique ne sera jamais purement mécanique dans ce cas-là. Parce qu'on fait attention à la deuxième file, et c'est la deuxième file. Moi, quand je suis dans le métier, c'est l'autre file qui dicte mon comportement, c'est pas la première. Ou c'est la file qui me klaxonne derrière, alors qu'on peut toujours attendre aussi bien 10 minutes de plus et laisser deux voitures avancer. Je vais déplier la stop pour deux voitures, ça reviendrait exactement au même. Sauf qu'on doit faire avec l'impatience de celui derrière, le tricheur de celui de droite, potentiel, etc. Et donc, on est déjà dans un univers de sens, d'intention et de motivation. Mais ce que j'observe aussi, c'est que ce qui est intéressant dans ce qui se passe ici, dans le public, c'est que le 23e bol ouvre à la surprise, y compris dans les interprétations. Puisque vous êtes tous en train de me dire, oui, mais alors, il y a peut-être ça. Et donc, non seulement ça ouvre à la surprise pour la chercheuse qui doit faire des hypothèses, qui trouve plus d'hypothèses, pour les moutons qui peuvent avoir des comportements imprévisibles, mais ce que je constate, c'est que j'avais jamais pensé à ça, c'est que ça. Les moutons, les fait, ben ouais, et ben, votre 23e bol vous met à devenir des physiciens, des mécaniques, dans l'embouteillage, des possibilités, une chaîne musicale, et qu'en fait, la surprise devient pour nous aussi.
Oui, on est aussi intéressant que les moutons.
Bon, réconcilions-nous avec Pablo.
Et les plantes.
C'est pas qu'on a mal, on va nous servir au repas.
Ah oui, justement, je crois qu'on va en rajouter.
Moi, je voulais revenir à l'éthologie, j'espère pas trop triste, mais c'est plutôt les plantes, et je vous ai choisi une belle expérience.
Alors, au cours de l'évolution, vous savez, la vie est apparue dans l'eau, et puis la vie est sortie de l'eau, et les plantes ont colonisé les milieux terrestres et ont dû apprendre à capter l'eau, et c'est ce qui est assez difficile pour une plante, et donc elle a des racines. Mais les racines ne sont pas assez loin dans le sol, et elles ont quand même des difficultés à capter l'eau et les nutriments. Alors les plantes se sont associées à des champignons, qu'on appelle les mycorhizes, donc mycorhizes, champignons, rhizes et racines, qui en fait vont créer une symbiose avec les racines. On a en quelque sorte la racine va se prolonger dans ces champignons qui forment des filaments, qui forment un réseau complexe dans le sol, d'enchevêtrement de filaments. Ces filaments, ils vont plus loin, ils sont plus fins, ils captent mieux les nutriments, l'eau, le phosphore, très important, le phosphore est très difficile à capter pour les plantes, donc c'est un élément assez limitant en agronomie. Et donc, les mycorhizes ont un rôle essentiel. Cette symbiose, c'est une symbiose pourquoi ? Parce qu'il y a avantage mutuel. Les plantes tirent plus d'eau et nutriments, comme je viens de dire. Et inversement, les champignons n'ont pas la capacité de photosynthèse. Et donc, les plantes offrent des sucres aux champignons. La photosynthèse, c'est simplement, pour rappel, ça dure une minute. J'espère que tu ne voudras pas.
Non, mais je suis ravie de revoir tout ça que j'ai tout oublié.
Je vais pas vous dire de manière austère. Moi, j'ai toujours appris la photosynthèse de manière austère. Mais je trouve que c'est une manière simple de comprendre. La photosynthèse, les plantes sont capables de prendre l'énergie solaire et de la stocker dans les molécules de manière chimique, en énergie chimique. Comment elles font? Elles le stockent dans du carbone, pour être simple. Et elles transforment le carbone qui est lié à l'oxygène, et donc avec pas beaucoup d'énergie quand il est lié à l'oxygène, c'est le CO2, en carbone lié à de l'hydrogène. Et là, le carbone, on va dire, se charge en énergie. CH, c'est des chaînes carbonées, c'est quoi? C'est des sucres et des graisses. Et donc, les plantes, elles captent l'énergie solaire et elles la stockent en énergie chimique. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend cette énergie chimique, les sucres et les graisses, et on les mange. Et on retransforme ce CH, ces chaînes carbonées, CH, nous, on prend l'énergie, on les retransforme en eau, CO2, et on rejette du CO2. Et ça, c'est le cycle, donc les plantes et les animaux. Donc la photosynthèse permet, c'est une invention de la vie, de transformer la lumière en l'énergie chimique. Bon. Et ça, les champignons et les animaux ne sont pas capables de le faire, seulement les plantes. Et donc on a une symbiose, voilà, au niveau des racines. Et alors, c'est une symbiose, pourquoi? Parce qu'on a remarqué, enfin les forestiers ont remarqué, que quand on prenait une espèce de plante et on l'introduisait dans un nouveau milieu, par exemple une plante européenne, un arbre européen, on le fait pousser la graine en Australie, mais ça ne marche pas bien. Et à un moment, un forestier qui a eu l'idée en Australie de prendre l'arbre avec la terre, et il a mélangé la terre européenne et australienne, et là ça a bien poussé. En fait, il a ensemencé la terre avec les champignons, ils ont découvert que cette symbiose était essentielle. Et inversement, quand on fait une coupe à blanc dans une forêt, et on laisse la terre à nu, les champignons dépérissent. Sans arbres, les champignons aussi dépérissent. Et alors, il y a mieux. On a découvert que, en fait, dans ce réseau complexe d'interaction de mycorhizes qu'on ne comprend pas bien encore, les mycorhizes peuvent connecter différentes espèces d'arbres entre elles. Et dans une expérience qui date de 97, très élégante, je trouve, d'un groupe de chercheurs canadiens, ils ont étudié la relation entre le bouleau et l'arbre, et le bouleau et le douglas, donc c'est une espèce de sapin. Et alors, ils les ont fait pousser ensemble, et ils ont fait respirer à l'un et puis à l'autre du CO2 marqué radioactivement au carbone 14. Et après un certain temps, ils ont pris les plantes, ils les ont brûlées, ils les ont analysées, et ils ont regardé où se trouvait le carbone 14, et ils ont remarqué que de 3 à 10%, mais en moyenne 6% du carbone 14 se trouvait dans l'autre espèce. C'est-à-dire que le carbone absorbé par le douglas était retrouvé dans les sucres du bouleau, et inversement, ça va dans les deux sens, les sucres du bouleau, enfin le carbone 14 constituait les sucres du bouleau, se retrouver dans les sucres du douglas. Et donc les mycorhizes, et alors ils ont essayé un peu d'abîmer les mycorhizes, de couper ces mycorhizes, ils ont remarqué que les échanges n'avaient plus lieu. Donc ça passe bien par les mycorhizes. Les champignons permettent aux arbres de se transférer des nutriments. Et là, ça va totalement à l'encontre d'une image d'épinal, on va dire, qu'on a de la forêt qui veut que les grands arbres fassent de l'ombre aux petits, et que ce soit la lutte pour la compétition, la lutte pour la survie et l'accès à la lumière. Et en fait, l'expérience est élégante parce qu'ils sont allés plus loin. C'est-à-dire qu'ils ont mis les Douglas dans trois conditions de lumière différentes, donc normale, à mi-ombre et à obscurité. Et donc, à l'obscurité, il n'y a plus de photosynthèse, donc les Douglas sont plus capables de fabriquer des sucres, donc ils sont en quelque sorte ils sont affamés. Ils ont remarqué que dans ces conditions d'ombre, il y avait plus de carbone radioactif, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'échanges encore. Quand le Douglas a faim, le bouleau lui donne encore plus de sucre. Et on a c'est un résultat assez incroyable qui a bouleversé aussi la vision des botanistes, la vision de la recherche, et qui ouvre beaucoup de perspectives. Moi, ce que j'aime bien dans cette ectosymbiose, on va dire cette symbiose d'individus, de symbiose extérieure, entre deux individus extérieurs, c'est non seulement que le rôle de la compétition est à revoir, dans nos, et ça Vinciel l'a très bien dit, dans nos dispositifs de recherche. On a peut-être des chercheurs, c'est là qu'il faut aller revoir les choses, pour faire émerger des résultats différents, qui sont là mais qu'on n'avait pas vu. Mais aussi, que une coopération entre plantes et champignons, une coopération, une symbiose on va dire, amène une autre symbiose, c'est-à-dire permet finalement la coopération entre plantes. Grâce à la symbiose entre champignons, les plantes peuvent coopérer. Et donc on a une sorte de poupée russe de coopération.
Alors donc on a envisagé toutes sortes de modèles de compétition et de coopération qui se deviennent plus mêlés finalement. C'est que ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de coopération pure. Et que si on ne voit que de la compétition, souvent c'est parce qu'on a mis un dispositif en place qui ne permet que soit que de voir la compétition, soit que de l'interpréter, soit de ne la faire qu'exister. Hein, c'est, je crois que les effets d'un dispositif peuvent faire parfois simplement construire ce qu'on est en train d'observer. On n'en avait pas parlé la dernière fois en tête, mais par exemple pour moi, toutes les recherches qui ont eu lieu sur la hiérarchie chez les animaux sont des dispositifs dont on ne se rendait pas compte à quel point en fait il crée un artefact dans les recherches, c'était qu'il se fondait sur l'idée que la compétition était normale. Et que donc on suscitait la compétition puisque c'était un état normal dans la nature, et ça permettait de voir la hiérarchie. Alors j'explique brièvement ce que je suis en train de dire ici. C'est que c'est nouveau Thelma Roel qui a fait, il n'y a pas quelqu'un qui a fait cette critique-là, d'autres primatologues ont émis cette critique. En fait, elle vient de, pour la fin de 2008, c'est quand Thelma Roel a observé ses babouins, ses premiers babouins, pour les boutons. Elle était en Uganda et elle a étudié les babouins dans la forêt d'Ishasha. Je vous précise, il ne faut pas les voir sur une carte. Et généralement, les babouins étaient observés dans les savanes. C'est important pour comprendre ce qui va suivre. Et d'ailleurs, c'était pour ça qu'on observait les babouins dans les années 60. Les chimpanzés ont commencé seulement, mais c'était très difficile à observer parce qu'ils sont mieux cachés, donc ils sont difficiles à habituer. On ne peut pas les approcher facilement parce qu'ils ont plein d'endroits pour se cacher dans la forêt, alors que dans la savane, les chercheurs pouvaient y aller en jeep, arriver facilement et puis ils pouvaient les voir. Mais pourquoi est-ce qu'on observait le babouin ? Il y avait une deuxième raison, c'est qu'on posait au babouin la question suivante, c'est quoi l'origine de l'humanité ? Et avant que le chimpanzé ne soit le tout bon candidat, après il n'a plus été, c'était le bonobo, mais bon, le babouin l'était. Et pourquoi est-ce qu'il l'était ? Parce qu'il vivait dans les savanes. Donc ça va vous paraître presque caricatural comme mythologie. Mais le fait qu'il vivait dans la savane, on pensait en fait qu'il est descendu de l'arbre. C'est le singe qui est descendu de l'arbre. Et donc il pouvait refigurer ou permettre de se configurer une espèce d'origine de l'humanité, puisque les hommes sont descendus de l'arbre. Je vous conseille d'ailleurs ce merveilleux roman de Robert Lewis, Pourquoi j'ai mangé mon père, qui fait une espèce de caricature extrêmement drôle des origines de l'humanité. Donc il fait une reconstruction où les hommes se disent il faut que nous devenions des hommes qui descendons de l'arbre. Et puis inventons le feu. Avec un oncle Vania qui est contre tous ces progrès, qui dit ça va mal finir, comment tout le monde dans les arbres. C'est très très drôle. Robert Lewis, pourquoi j'ai mangé mon père, a pleuré d'être prêt. Je reviens à les babouins, descendus de l'arbre, donc bonne origine de l'humanité. Alors, les babouins étaient décrits tous de la même manière à ce moment-là. Ils étaient extrêmement compétitifs, très mal dégrossis, comment des êtres pas sympathiques du tout, se battant pour un oui ou pour un non, et surtout très rigidement hiérarchisés. Et la hiérarchie, on considérait, c'était une façon d'un peu apaiser les conflits. Une fois que tout le monde a compris que le mal alpha, c'est le mal alpha, et bon, on le laisse se servir d'abord, etc. Et tant qu'il n'y a pas de possibilité de faire alliance pour le renverser, et bien on le laisse mal alpha, puis il y a le mal bêta, puis il y a le mal lambda, le tout petit, sur lequel tout le monde va cogner, qui n'a droit à rien, et puis les femelles, parce que bien sûr, les femelles ne sont pas hiérarchisées, elles sont pas politiques, hein. C'était comme ça qu'on voyait les mamans. Les mamans, elles s'occupent des enfants, et elles tiennent leur petit ménage. Et elles sont à disposition des mâles pour les besoins de reproduction. C'est vraiment comme ça qu'on les décrit, mais je peux vous assurer, j'ai des textes, c'est presque littéral. Bref, de toute façon, c'est pas le sujet qui est ici. Alors, tous les mamans étaient donc décrits de la même manière, et c'est incroyable. Et quand les chercheurs n'arrivaient pas d'ailleurs à voir la hiérarchie, ils disaient: c'est une hiérarchie latente, elle est tellement bien installée pour la moi-même. C'est marrant, elle arrive sur son terrain, le baroin du chacha, qui n'avait jamais été observé, pas comme beaucoup de baroins, c'est le début de la primatologie, hein, cette affaire-là. Donc elle arrive en 62-63, et elle commence à publier des articles, d'abord dans la revue ougandaise de sciences naturelles, et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'elle dit, ben, c'est bizarre, en fait, les mamans, ils ne sont pas comme les autres, ils ne sont pas du tout hiérarchisés. Je ne vois pas de dominant. Au contraire, je vois des êtres extrêmement polis les uns avec les autres, qui se font tout le temps des petits signes de gentillesse, très respectueux des femelles. Et d'ailleurs, il me semble que ce sont les femelles qui guident la troupe dans les déplacements et pas les mâles, comme on dit dans les autres troupes. Donc mes mamans ne se comportent pas comme les autres mamans. Qu'est-ce qu'on va dire? Ben, il y avait deux, trois possibilités. Qui arrivera sur les Ström? C'était une première possibilité, c'est de dire vous n'avez pas bien observé du tout. Vous êtes une mauvaise observatrice, on ne tient pas compte de vos données. Mais Thelma Rouel avait eu des prix, était réputée, elle travaillait avec un des grands primatologues américains. On ne pouvait pas lui faire ce coup-là, elle ne se serait pas laissée faire, et ça aurait été un trop grand scandale. Deuxième possibilité, ils ont essayé. Il y avait déjà un chercheur qui était revenu avec des babouins qui avaient comme ça un peu extravagant, pas de hiérarchie, pas de compétition, pas de bagarre, tout le monde est content, tout le monde gentil, personne ne discute, personne ne demande de la nourriture à personne, alors que chez les autres, c'était tout le temps des vols de nourriture, des bagarres, etc. Et il y avait un chercheur qui était revenu d'Afrique du Sud en disant les babouins, voilà, selon ça, on avait dit ah, c'est pas des vrais babouins, c'est une autre espèce. Et donc on avait baptisé babouin chakma en barrant le mot babouin, ce sont les chakma. Donc vous avez été excommunié. Et pour Thelma Rouel, on va dire une autre solution. On va dire, mais forêt des chachas, ils sont dans la forêt. Et donc c'est vrai qu'il y a une profusion de nourriture, c'est vrai qu'ils étaient assez avantageux, mais ce n'est pas tout. Les autres chercheurs vont dire, les grands ponts, les dos argentés, comme on appelle, de la primatologie, vont dire, en fait, nos babouins, eh bien, ils n'ont pas accompli le sacrifice. C'est en quelque sorte, c'est pas ces mots-là qui viennent, mais on peut le dire comme ça. Ils ne sont pas descendus de l'arbre. Et descendre de l'arbre, c'était une terrible épreuve. Il y a plus tout le mythe de Prométhée, c'est le paradis. En fait, c'est terrible comme dans la primatologie, les schèmes du paradis perdu, les schèmes d'Adam et Ève restent présents. Et en fait, c'était dit comme ça. Ils ne sont pas descendus de l'arbre. Et descendre de l'arbre, c'est vrai que c'était une évolution, mais ça coûte parce qu'on perd tous les avantages qu'on avait dans les arbres. Et là, la concurrence s'installe, et le malheur de la concurrence, et l'obligation de la hiérarchie. Donc, vos babouins, en fait, parce qu'ils ne sont pas descendus de l'arbre, ils n'en ont pas payé le prix. Et elle va l'accepter pendant 2 ou 3 ans, et puis elle va dire, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un peu trop simple, parce que ça, c'est des raisons techniques qu'elle va utiliser, que je vous dis en deux mots. C'est que la pression sélective ne peut pas jouer sur des brèves périodes comme ça. La descente, si les babouins et les savanes sont descendus là, c'est qu'il n'y a pas assez d'années pour que la pression sélective ait pu jouer au point de différencier à ce point-là en groupe et tous les autres groupes de l'autre côté. C'est de l'autre côté qu'il faut chercher l'erreur. Et elle va analyser une méthode très instructive dans toutes les controverses en éthologie, une méthode qui marche très bien. Elle va reprendre toutes les données de terrain de tous les autres et elle va les analyser. Qu'est-ce qu'on a fait, qui a observé, quoi, etc. Elle va prendre les films qui ont été tournés, tourner des films. Et qu'est-ce qu'elle va constater? Qu'en fait, ceux qui ne sont pas apparemment hiérarchisés, la hiérarchie latente, c'est un groupe bien distinct. C'est Chakma, et puis ceux dont on disait, bon, la voix, pas mal, doit être là, enfin bref, bon. Et il y a tous les autres. Et elle va constater que ceux qui sont très hiérarchisés, c'est deux conditions particulières. La première, c'est que tous les babouins en captivité sont très hiérarchisés. Et la deuxième, c'est tout l'abat-moi qu'on a nourri artificiellement pour pouvoir s'en approcher, s'en hiérarchiser. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand les animaux sont en captivité ou dans la nature, les chercheurs les nourrissent, mais toujours un peu trop peu. Et toujours, de nouveau, le même système. Selon un système de nourrissage, on donne tout au même endroit. On lance des cacahuètes et des choses comme ça. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on observe de la compétition et que très rapidement, il y en a un qui est plus fort que les autres. Et très rapidement, les autres vont se décourager. En quelques jours, vous installez une hiérarchie. Et donc, en fait, les chercheurs croyaient avoir révélé la hiérarchie, très souvent, c'est eux-mêmes qui l'avaient provoquée. Et comme la hiérarchie, c'est la première chose, pour les autres chercheurs, ils l'ont reconnue. La hiérarchie, on leur demandait, dans vos données de terrain, d'abord établissez la hiérarchie, parce que tout dépend de la place de l'animal dans la hiérarchie. Donc, tout ce que vous observez, vous devez relationner avec ça. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, les chercheurs? Comme ils ne voyaient pas tout de suite la hiérarchie, ben, ils mettaient les animaux en compétition, deux par deux, pour faire émerger la hiérarchie, mais ils ne se rendaient pas compte que la faire émerger, ça signifiait la construire. Et donc, les animaux, après, étaient en effet très hiérarchisés, très simplement hiérarchisés, et puis il y avait un mal des grossiers qui tapait sur tout le monde, et puis tous les autres essayaient d'éviter et de le laisser tranquillement se servir. Donc, tout ça pour vous dire que d'une certaine manière, l'idée de la compétition était parfois tellement installée chez les chercheurs que toutes les idées qui associaient à la compétition les ont accompagnées. Et donc, quand on parle de hiérarchie dans le monde animal, il y a de la hiérarchie, c'est vrai. Mais on ne peut pas être sûr qu'elle n'est pas un résultat du dispositif et qu'elle n'est pas surtout beaucoup plus compliquée que ce qu'on prétend d'habitude. Très souvent, par exemple, dans des groupes d'oiseaux, en effet, il y a un couple qui se reproduit dans toute une troupe d'oiseaux. Alors, on dira que c'est le mâle et la femelle qui sont les plus élevés dans la hiérarchie puisqu'ils ont le droit de s'accoupler. Ils ont le droit de se reproduire, mais pas de s'accoupler. Donc, on ne sait pas toujours bien la différence, mais ça mériterait peut-être d'être fait. Il y a des tas d'oiseaux qui s'accouplent sans se reproduire. Et qui, visiblement, il y a des mécanismes de contrôle de la reproduction. Je suppose que tu as dû étudier ça chez certains oiseaux, pas chez tous, mais ils peuvent s'accoupler et qu'il n'y ait rien qui soit issu de cette affaire-là. En tout cas, chez les cratéropes, il semblerait que ce soit le cas. Deuxièmement, c'est assez comique à dire, mais qui dit que les oiseaux, ils ont finalement. Enfin, je veux dire, oui, il y a des mécanismes de la sélection naturelle. Qui nous dit que se reproduire, c'était la chose la plus passionnante au monde? Il y a peut-être quelque chose à mettre en question. Est-ce que tous veulent? Admettons que ce soit même le cas. Mais ce qu'on constate alors, c'est que chez de nombreux animaux, le droit de se reproduire, qui est considéré comme une position élevée dans la hiérarchie, n'est pas nécessairement corrélé à des tas d'autres positions qui sont élevées sous d'autres aspects dans la hiérarchie. Par exemple, chez les corbeaux, le droit de manger le premier, dont on considère que c'est le dominant, le mot dominant n'est peut-être pas le bon mot. Pourquoi? Parce qu'en fait, qui se nourrit le premier sur une carcasse chez les corbeaux, c'est le plus courageux. Et pourquoi? Parce que c'est dangereux de se nourrir le premier sur une carcasse, parce que ça pourrait être une carcasse qui fait une farce. Et qui fait semblant d'être mort pour attraper un corbeau au passage. Ça arrive, ils le savent. Et donc le premier qui va picorer dans la carcasse, c'est lui qui prend les risques. Donc on dit, les autres laissent le dominant, les autres laissent le dominant, mais celui qui marche devant l'ennemi, est-ce qu'on appellerait ça le dominant chez nous? Ou les premières lignes que les Maos savaient mettre dans les manifestations, à certaines époques un peu troublées, les Maos à Paris, les premières lignes des manifestations, est-ce qu'on appelle ça les dominants ou bien ceux qui allaient se ramasser le plus sur la question? C'est les Maos, ils disaient, c'est salaud par là, ils mettent les innocents devant pour se protéger. Enfin, ça fait partie des conflits politiques. Donc personne n'aurait jamais pensé. Donc le mot dominant est un mot extrêmement chargé, alors qu'en fait, ça a des significations peut-être qui n'ont rien à voir avec tout ça. Donc tout ça pour dire que la compétition, si vous utilisez le mot dominant, ça veut dire que vous êtes déjà dans l'idée d'une compétition pour lire l'histoire. Donc ça veut dire que toute l'histoire que vous allez lire, qui va tenir debout, parce que ce sont des interprétations, va être orientée par une prémisse, parce que c'est une prémisse habituelle. Donc ceci étant posé, je vais quand même parler de hiérarchie, parce que je travaille avec des chercheurs qui parlent de ça. Je peux être critique, etc., mais je les laisse dire. Je vais donc vous parler maintenant, et désolé pour ceux qui en ont déjà entendu parler, je vais vous parler du cratéropécalier et de la théorie du handicap, parce que je trouve que c'est un modèle de compétition, coopération, qui est extrêmement intéressant et compliqué. À nouveau, puisque ce que nous cherchons comme exemple, c'est des exemples où rien n'est simple, où vous ne pouvez pas avoir de coopération sans compétition, et de compétition sans coopération, dans certains groupes sociaux, qui ont inventé des modes de régulation relativement équilibré du fonctionnement. Alors,
Les Trateropecaillés. Alors, les Trateropecaillés, ce sont des, on les appelle aussi des tafros d'Arabie. En anglais, c'est babbler. Si vous voulez aller voir des images sur le net, vous taperez. Alors, je vous le conseille parce que ça va mourir de rire. La musique est un peu nœud, mais c'est encore plus drôle avec la musique. Tapez Dancing Babblers, B-A-2-B-L-E-R-S. Et à un moment donné, vous aurez un YouTube qui vous montrera des cratéropes qui dansent. C'est extraordinaire. Donc vous verrez à la fois des cratéropes et à la fois des cratéropes dansant. Et si vous continuez, vous tapez Zahavi en plus, vous en avez Dancing, etc. Vous aurez des conférences de Zahavi et à un moment, vous aurez un petit film, vous voyez comment Zahavi observe ses oiseaux, c'est-à-dire est accroupi avec les oiseaux qui viennent se poser sur lui, etc. Vous dire l'étrange ornithologue, normalement les ornithologues prennent des distances avec leurs animaux et ne n'ont pas des contacts avec eux. Zahavi, Z-A-H-A-V-I. Donc Zahavi est un ornithologue, Amos Zahavi, est professeur d'éthologie à l'université, il a eu une bonne quarantaine d'années. Moi, quand je suis allée le voir, c'était en 1994-95, il avait déjà 70 ans bien accompli, et il observait des cratéropes depuis 50 ans dans les airs du Negev en Israël. Alors, pourquoi est-ce que je suis allée voir Zahavi? En fait, parce que j'avais fait une mémoire de psychologie en éthologie sur l'altruisme chez les oiseaux, qui était un sujet qui commençait depuis quelques années à émerger, notamment grâce aux travaux de la sociobiologie. Et je dois avouer que sous mémoire, bon, ça s'est très bien passé, tout ce qu'il faut, mais j'avais quand même un drôle de sentiment, c'est que les théories sociobiologiques me semblaient écraser les oiseaux. Je veux dire par là qu'il y avait une explication, et une fois que cette explication fonctionnait pour l'oiseau, les oiseaux n'avaient plus aucune particularité. Alors la théorie sociobiologique, pour ceux qui connaissent, je le dis en deux mots, c'est ce qu'on appelle la théorie de sélection de la parentèle. Alors ça veut dire quoi? Je ne vais pas expliquer les abeilles, etc., etc. C'est en fait une théorie qui est censée répondre au problème du paradoxe de l'altruisme. Alors le paradoxe de l'altruisme, je vais y aller à grands coups de pinceau pour ne pas perdre de temps, mais ça fait trop théorique. C'est le paradoxe par exemple, qui est dénoncé par Wilson, et par Wilson, le père de la théorie sociobiologique, en fait c'est pas pour le père, parce qu'Hamilton est un homme, mais celui qui l'a popularisé et rendu absolument scandaleuse en limitant les humains dans la paix et en faisant beaucoup de politique avec cette théorie, que j'aurais dit que Wilson dit, les héros n'ont pas d'enfants. Donc, si vous sacrifiez pour un animal autre que vous, en principe, il part du principe que l'altruisme est génétique, vous ne transmettez pas votre gène altruiste. Et si vous aidez un égoïste, ben, en principe, l'altruisme aurait dû disparaître de la population, puisque seuls les égoïstes qui sont aidés par ces couillons d'altruistes vont survivre et faire plein d'enfants. Pendant que les altruistes sont occupés à s'occuper des enfants et à sauver le monde, les égoïstes continuent à se multiplier. Donc l'altruisme aurait dû disparaître, c'est un paradoxe. Et pourtant, il y en a. On observe quantité de comportements altruistes dans la nature, notamment chez les oiseaux, c'est-à-dire que par exemple, quand un couple se reproduit, des aidants au nid vont venir nourrir la nichée, la protéger, s'en occuper, etc., etc. Et donc, c'est incompréhensible. Pourquoi est-ce qu'ils font ça alors qu'ils ne transmettent pas leur bagage génétique, donc ça aurait dû disparaître. Paradoxe. Quand on dit les héros n'ont pas d'enfants, c'est qu'on considère qu'ils sacrifient un investissement qu'il ferait mieux d'investir dans leur propre descendance. Alors, Wilson et d'autres vont résoudre le paradoxe en disant « Oui, mais le modèle peut tenir, on parle presque en termes de théorie des jeux ici, le modèle peut tenir d'un point de vue évolutionnaire si ceux qui se sacrifient le font pour les apparentés proches qui eux-mêmes possèdent le gène de l'altruisme dans une proportion, une probabilité en fonction du degré d'apparentement. C'est ça qu'on dit sélection de la parentèle. Donc, si vous ne faites pas d'enfant, que vous êtes un oiseau, si vous aidez 4 neveux, 8 cousins, c'est des calculs théoriques, en principe, le gène de l'altruisme continue à passer à la génération future, et donc l'altruisme ne disparaît pas. Et donc, tous les oiseaux, la littérature que j'ai étudiée, en fait, ils étaient étudiés par des sociobiologistes qui essayaient d'accumuler les preuves de la théorie sociobiologique. Et donc, tous les oiseaux, mais alors c'était un peu déprimant, parce que j'avais un guépier en fond blanc, j'avais un gébleu du Mexique, un gébleu de Floride, un gébleu du Mexique, une corneille grise de Lausanne, et en fait, mais je ne savais rien sur tous ces oiseaux, tout ce que je savais, c'est qu'ils aidaient leurs apparentés, et je pouvais faire des calculs très compliqués de proximité d'ADN, etc., etc. Et donc, j'apprenais qu'ils nous les pionniers, et je savais qu'ils n'avaient pas de comportement social à part promouvoir la transmission de leur bagage génétique.
ce qui est quand même un triste destin. Ah, franchement. Oui, c'est un triste destin, parce qu'il est tout le temps. Sauf deux oiseaux. Alors, un dont je ne parlerai pas, c'est la senteur mouchée, qui était étudiée par deux sociobiologistes anglais, mais qui faisait des traces sur tous les femelles, que la morale éprouve, mais très amusante. Et il y avait Zahavi, l'israélien Amos Zahavi, qui avait écrit deux articles que j'avais réussi à trouver, pas plus, parce que déjà à 70 ans, c'est peu, comme production, mais ce n'est pas la production qui manquait. C'était qu'il y avait eu des parages terribles dans les revues, parce qu'il n'était pas assez scientifique. Et qu'il écrivait alors un oiseau est pris aussi au dernier degré. Le stratégote non seulement danse, pour aller voir, parce que n'était pas convaincu que c'était la danse, mais ça ressemble à ça. Avec la musique, ça fait danse, et tout d'après ça, c'est la danse. Il offre des cadeaux. Il se dispute pour pouvoir être sentinelle. Donc quand le stratégote surveille, parce qu'il y a des prédateurs d'en haut et d'en bas, c'est dangereux, sur le côté certains humains. Se dispute le droit d'être sentinelle, et donc quand un cratérope fait le guet, un autre va venir proposer de le remplacer. Il se dispute pour pouvoir le faire. Il joue à ballon prisonnier, ben, c'est comme ça. Donc, ils vont occuper une place, et puis l'autre va venir prendre la place, et puis il doit aller chercher. Mes étudiants m'ont dit tout à l'heure, à qui je posais la question à votre père, je ne sais pas comment s'appelle ce jeu, ils m'ont dit ballon prisonnier. Je suppose qu'ils ont raison. Certains m'ont dit que c'était bien chat-perché, mais enfin, peu à peu. Et ils se font des cadeaux avec une très grande fréquence. Mais il y a une particularité. C'est que si, dans certains cas, il fallait suicider ces cas-là, quand un cratère obtient un cadeau à un autre, il se ramasse une de ses patates, je ne vous dis pas. J'en ai même vu un jour qui proposait un petit verre. Qui t'a fait quoi, tu veux pas ce que c'était, moi. Il s'amène près de l'autre, il fait un sifflement caractéristique important, j'ai oublié de le dire, un sifflement caractéristique qui veut dire je fais un cadeau, et fort, je vous le dis. Hein. Tout le groupe est là, ne peut pas le manquer. Et il offre à celui à qui il s'adresse. Et il arrive quelquefois, il peut l'accepter, mais que l'autre se fâche. Et j'en ai vu un jour se précipiter sur le cratérum d'honneur, le retourner, lui renfoncer son cadeau dans la gorge, l'obliger à manger. Qu'est-ce qui se passe?
La vanité, c'est la vanité, il va être vu comme étant.
Alors, le mot vanité a scientifique notre état, mais on n'est pas très mal. Et d'ailleurs, Zahavi va d'ailleurs changer de mot au fur et à mesure, il va de plus en plus audacieux, plus ses affaires marcheront, parce que maintenant il est très connu, très publié et tout. Mais à l'époque où j'y étais, c'était crié d'horreur quand il arrivait dans un colloque. Oh mon Dieu, ça allait être de l'anthropomorphisme, ça allait être épouvantable, etc. Je remplace le mot vanité par le mot prestige. Et là, ça passe. Et ça parle d'autant mieux que ces observations, ces hypothèses ont été faites à propos des corbeaux. Les corbeaux ont reçu comme hypothèse de la part d'un chercheur qui s'appelle Ben Heinrich, un chercheur américain d'origine allemande, en disant que les corbeaux, la question de la hiérarchie, et on est dans les questions de hiérarchie, se pose pour eux, est modérée, pondérée par des questions de prestige. Ce qui permet d'ailleurs d'expliquer les comportements fantasques de certains corbeaux, dont on a vu par exemple un jour un corbeau qui demande ses copains, par exemple, la queue d'un loup qui dormait. Ce sont des choses que les corbeaux, visiblement, sont assez stupides pour faire. C'est pas si stupide que ça quand il y a des questions. Ou alors, pourquoi ils font parfois, ils s'envoient les corneilles faire ça aussi, les piquer vers le sol, et c'est la dernière minute qui se redresse. Eh bien, c'est un jeu, visiblement, qui engage au prestige. Et donc, peut-être que le corbeau qui va picorer le premier la carcasse, c'est peut-être le plus brave, mais c'est peut-être aussi une question de prestige qui est en train de s'engager. Ça, c'est la question de la hiérarchie est encore pendante dans un groupe. À ce moment-là, il y a peut-être cette question-là qui va se poser. Alors, les cratéropes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui importe pour un cratérope dans le groupe, c'est d'augmenter son prestige. Parce que la hiérarchie est fixée, vis-à-vis, et elle est fixée par l'âge, et au sein d'une même classe d'âge, par les performances dans les premiers mois qui ont suivi le fait de devenir adolescent pour un cratérope. Donc, la hiérarchie va s'installer dans les premiers mois par des conflits, des choses comme ça. Par là, de toute façon. Mais la hiérarchie peut être rejouée par les prestiges. Et donc, un cratérope peut essayer de modifier son prestige, donc sa position dans la hiérarchie, en accomplissant des actes qui permet d'augmenter le prestige. Et ces actes sont toujours des actes coopératifs. Donner des cadeaux, danser, c'est un acte coopératif. C'est considéré comme un rituel de liaison sociale, c'est un acte coopératif. D'autant plus que danser, c'est qu'ils le font à un endroit. Il y a un moment et un endroit qui est dangereux. Ils le font à découvert alors qu'ils pourraient le faire entre des acacias. Ils le font très tôt le matin au moment du lever, alors qu'il ferait mieux de manger à ce moment-là. Ils sont épuisés par la nuit. Donc, c'est un hasard. Se remplacer comme sentinelle. Et alors là, ils sont d'un héroïsme remarquable. Si jamais il y a un prédateur qui attaque un critéro, tous les autres vont se précipiter. Et ils se disputent pour le droit de nourrir la méchée du couple reproducteur. Donc, ça même, tout c'est bagarre pour qui pourra nourrir et celui qui nourrira le plus, etc. etc. Mais toujours avec le petit supplément caractéristique. Oui?
Si le prestige détermine la position dans la hiérarchie, quel est le bénéfice ou comment s'exprime la hiérarchie chez eux?
Mais c'est-à-dire que par contre,
quels sont les bénéfices quand on est en haut de la hiérarchie?
Alors, quand celui qui est en haut, c'est-à-dire que. Alors, ce que ça explique, c'est que. On va passer par la bagarre entre celui qui offre et quand il se ramasse une tatane quand il a offert. Ce que ça avait dit, c'est si un dominé donne un cadeau à un dominant et que le dominant discrètement ou quoi que ce soit l'accepte, il accepte en même temps que le prestige de l'autre monte et que le sien n'est plus si bon. Et en fait, donc, les scatéropes essayent de monter dans le prestige parce qu'à un moment donné, dans le couple reproducteur, il va devenir trop vieux ou il va arriver à un petit accident parce que les scatéropes peuvent mourir, ils vivent très longtemps, ils vivent 15 ans en principe, mais il y a des accidents, il y a des prédateurs et des choses comme ça. Et donc, il va pouvoir prendre la place, et parfois il y a même deux couples reproducteurs, parce que les créateurs sont toujours en principe, et c'est jamais comme en principe. Vous voyez, là, il dit en principe, un couple se reproduit, parfois vous avez deux couples qui se sont produits dans le groupe, ou parfois vous avez deux mâles avec trois femelles, enfin,
ils sont très importants. Ils ont le plus de prestige, c'est un plus de nourriture,
est-ce que c'est plus de nourriture, en tout cas, plus de procréation, etc. Zahavi dit, le prestige, ça permet d'obtenir plus de choses. Plus de considération, plus etc. Mais, visiblement, les cadeaux, justement, ils doivent les refuser. Mais Zahavi n'est pas explicite là-dessus. J'ai eu beau parcourir, il est explicite, mais je pense que pour lui, c'est se reproduire qui compte. Zahavi reste dans le modèle de la reproduction. Il n'y a rien à faire. Mais, je ne suis pas sûre non plus que c'est parce qu'il n'ose pas écrire, mais peut-être aussi c'est la considération, parce que les scatéropes sont très conscients de la vie intellectuelle. Je veux dire, c'est pas du tout c'est pas des moineaux. Ah, c'est ça des donc il pourrait, en effet, peut-être que le mot vanité pourrait, ou la déférence, comme dirait Thelma Roel, etc. Oui.
Est-ce qu'il y a une différence entre le sexe dans laquelle tu précises?
Alors, ça c'est le problème, c'est que Zahavi, et ça c'est sur le terrain, j'ai eu beaucoup de discussions avec un chercheur de Cambridge qui s'appelait Jonathan Wright, qui était tout à fait sociobiologiste, mais qui était, donc vous allez dire, je n'étais pas du tout d'accord avec ses interprétations des cratéropes, pour ça c'est mal à l'aise, mais en revanche, il avait des interprétations sur le fonctionnement de l'équipe qui était fabriqué des vers. Et il m'a dit, là, avec Zahavi, tu as affaire à un Israélien de 70 ans, les femelles n'existent presque pas. Donc si tu veux poser des questions, et il dit, est-ce que tu as vu une femelle faire quelque chose dans la littérature sur les cratéropes? J'ai dit non. Il dit, pose-toi des questions, les femelles n'existent pas. On est encore dans les modèles anciens de l'ornithologie, où les femelles ne sont pas dans la compétition, où elles ne sont ni dans la coopération, etc. Pourtant, quand je posais des questions à Zahavi, je lui ai demandé à jouer, est-ce que les femmes, elles dansent? Il m'a répondu, bien entendu, qu'elles dansent, qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent? Donc pour lui, c'était, voilà. Mais par contre, il m'a raconté des choses assez étonnantes, c'est que quand il y a des conflits entre deux groupes de traitements, les conflits sont très très durs, les conflits frontaliers. Donc autant il y a des bagarres dans le groupe lui-même, mais elles ne prennent jamais des proportions trop fortes, autant quand c'est entre deux groupes de traitements, alors c'est des guerres, mais avec des... C'est pas forcément des morts, mais il y a déjà eu des morts, quoi. Et ce que Zahavi m'a raconté, il m'a dit, en fait, on a remarqué que les femelles d'un groupe vont copuler en cachette avec les mâles de l'autre groupe en plein milieu de la bagarre. Et on ne sait pas pourquoi elles font ça. Le fait que Zahavi me dise, on ne sait pas pourquoi elles font ça, ça me paraît bizarre, ça veut dire que personne n'a cherché. Et la manière dont il me le présente, ça veut dire que c'est aussi machistement, et je le dis en souriant, parce qu'il aurait pu me dire, vous savez, il y a des mâles de l'autre groupe qui viennent copuler ou qui copulent avec des femelles du premier groupe en vagabond. C'est les femelles qui vont, c'est elles les traîtres, vous voyez, si je... Donc les mâles se battent alors que les femelles se battent comme les autres, elles vont aussi au camp d'honneur. Mais c'est elles qui vont copuler, donc oui, c'est des drôles de... Donc la façon dont on structure les narrations,
sont extrêmement intéressants parce que ça vous dit énormément de choses du chercheur. Il y a des plis dans lesquels on lui a appris à faire de l'histoire. Ah, c'est par exemple quand on vous dit dans une troupe de barbouins avec un harem, ben, toute l'histoire à partir de là est surdéterminée. Pourquoi ? Parce que si vous dites harem, vous dites mâle dominant, vous dites mâle possesseur du territoire, vous dites que si un autre mâle vient, il va prendre possession des femelles, c'est tout le vocabulaire qui va prendre. Ça veut dire femelle soumise, ça veut dire femelle, etc., etc. Vous voyez, harem. Par contre, si vous dites, comme certains chercheurs ont proposé, ils ont réfléchi à cette expression harem, est-ce que ça n'engage pas, engage trop l'histoire ? Et certains chercheurs ont dit, et si on disait autrement ? Qu'est-ce que ça fait comme histoire ? Si on dit, chez certains animaux, comme la nourriture est rare et distribuée de telle sorte à ce qu'on doit se nourrir tous ensemble, est-ce qu'il y a tellement un gré très nombreux ? Non. Si on est des femelles et qu'on veut avoir des enfants, de combien de mâles a-t-on besoin ? Oh. Ça suffit. Si les mâles mangent beaucoup, ne coûte rien pour élever les enfants, donc chercher des babouins, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en prendre plusieurs ? Donc, quel est l'intérêt d'un mâle ? C'est de tenir les autres mâles à l'écart pour qu'on soit tranquille qu'ils ne viennent pas manger sur notre territoire. Donc, réunissons notre femelle, choisissons un mâle, prenons-le et formons un groupe avec lui et éliminons et évitons les autres. Et lui s'occupera d'éviter les autres par sa présence même. C'est plus. Alors, c'est pas une histoire plus vraie. C'est simplement une structure narrative qui s'engage autrement. Et une fois que vous faites ça, vous avez une bagarre entre un autre mâle qui vient. Vous pouvez plus dire qu'il prend possession du harem. Ça devient une affaire entre deux mâles. Et peut-être que les femelles vont l'adopter parce qu'elles se disent, peut-être qu'elles sont plus sociologiques, elles vont se dire, s'il a gagné le combat, on a intérêt à voir celui-là parce qu'il en imposera mieux aux autres. Mais c'est plus une affaire de harem, il n'a pas pris possession du harem. Elles se sont dit, bon, ben, c'est peut-être mieux celui-là parce que l'autre est plus faible hein, ces derniers temps. Mais donc, voilà. Alors, c'est pas plus vrai, je dis pas que c'est. Mais c'est une histoire simplement qui oblige à des narrations différentes et qui ouvre les narrations. Et ouvrir les narrations, c'est ce qu'il faut apprendre à faire. Autrement, on reste toujours dans les mêmes chaînes et on voit tout le temps. Et alors, on observe tout le temps la même chose. Donc, pour en revenir au cratérop, quel est finalement le fil de toutes ces histoires selon Zahavi ? Eh bien, Zahavi dit pourquoi du prestige, c'est la théorie du handicap. Et la théorie du handicap, c'est plus joli. C'est une théorie qui dit que finalement, quand vous prenez un handicap, vous affirmez votre supériorité. Le lièvre et la tortue, en principe, c'est parce que la fontaine voulait vraiment trop moraliser l'affaire, mais en principe, le lièvre devait gagner. Il était con sur le coup, mais il a mal calculé. Mais en principe, le lièvre devrait gagner parce que prendre un handicap, il faut être sacrément sûr de soi. Et comme disait Harry, la sélection naturelle ne va pas permettre que ceux qui se bourrent vraiment de trop sur leurs compétences en sortent. Ça, c'est une hypothèse pas plus trop sélective, mais qu'on peut attendre. Alors, le principe du handicap, c'est celui-là. C'est que si vous donnez à manger à un autre, ça veut dire que vous avez suffisamment mangé vous-même. Donc, vous avez les moyens de trouver à manger. Si vous vous proposez pour cette sentinelle, ça veut dire que vous avez du temps et que vous vous sentez assez fort pour pouvoir assumer ce rôle-là. Si vous vous proposez au combat, ça veut dire que vous sentez que vous pouvez assumer ça, etc., etc. Si vous vous proposez à danser, ça veut dire que vous n'avez pas peur. Ou en tout cas, même si vous avez peur, vous sentez de taille à affronter les dangers que représente le fait de danser à cette période-là de la journée. Et faire. Donc, c'est des questions, c'est Darby hein, qui dit ça, donc c'est des questions de prestige. Mais c'est intéressant, parce que ça ouvre plein d'hypothèses. Et c'était donc les mêmes hypothèses ont été faites à propos des corbeaux. Et donc, le principe du handicap, c'est d'ailleurs un principe qui a été depuis lors reconnu pour résoudre un autre paradoxe de la sélection naturelle, qui est le paradoxe de la contradiction des temps, par exemple, du faisant un rebus. C'est normalement les temps, la pression sexuelle devrait favoriser les roues de plus en plus flamboyantes, puisque les femelles vont plutôt choisir plus flamboyantes. Mais la pression de la sélection naturelle va dans l'autre sens, parce que se traîner avec un machin comme ça derrière soi, et vont plus se faire repérer par tous les prédateurs qui passent, normalement, tous les plans un peu visibles devraient être éliminés et laissés au profit des plans cryptiques. Pourtant, les plans sont très visibles. Zahavi dit, en fait, les plans très visibles, en fait, se promènent avec une sorte de handicap. Et disent aux femelles, regardez, je me promène avec ça, j'ai survécu, je suis le meilleur.
créature est dans son corps mortis, hein, pas les vies. Donc ça veut dire quoi? Ben, le principe du handicap, c'est une façon d'affirmer sa valeur, mais avec une revendication fiable. Parce que si vous n'êtes pas bon, vous ne pouvez pas vous promener avec ça, vous serez chopé. Et il va être, d'ailleurs, une fois qu'il a trouvé le principe du handicap, alors il s'est amusé comme un fou. Et il l'a appliqué même à la petite gazelle de Thompson. Vous savez, c'est une gazelle qui saute très haut pour avertir leur compagne que le lion, parce que c'est le lion, mais parce que les lions, ils ne font pas grand-chose dans sa terre, mais c'est que le lion qui s'en charge, etc. Et on a toujours dit, oh, la petite gazelle de Thompson, elle est très molle dans la voix. Comme elle est altruiste, elle se sacrifie pour ses compagnes, pour les avertir, elle se fait repérer, etc. Et Zarvik est un peu cynique, il dit, ah ouais? Vous avez déjà regardé celle qui sautait. Vous avez déjà vu que c'est déjà attrapé? Les lions l'ignorent généralement. Pourquoi? Elle n'est pas du tout altruiste en train de sauver les campagnes. Elle, ça a une efficacité de type altruiste. C'est vrai qu'elle coopère. Mais elle coopère parce qu'elle a les moyens de coopérer. En sautant comme ça, pourquoi est-ce que les lions ne courent pas après? C'est parce qu'ils voient bien qu'elle est en super forme, qu'elle peut se permettre ce genre de choses et que ce n'est pas la peine. Il vaut mieux courir après un individu qui est beaucoup plus affaibli. C'est ça, sûr. Et donc, ça, c'est Zahavi qui s'écrit. En sautant, la gazelle dit, regardez-moi, vous pouvez essayer de m'attraper, vous n'y arriverez pas, c'est pas la peine de perdre votre temps. Et donc, elle ne doit même pas s'enfuir. Parce qu'elle s'enfuit quand même, on ne prend pas des risques idiots. Donc, on commence sur le vie, elle est la sortie. Donc, toujours est-il que le point... Oui,
vous pouvez appliquer les nécessités de l'handicap pour les gens qui ont un tatouage.
Un tatouage?
Un tatouage, oui.
Dites-moi.
Parce que c'est quoi? C'est faire un tatouage, en effet, c'est une façon de montrer qu'on est fort assez pour supporter un tatouage et c'est un handicap.
Pourquoi c'est un handicap, un tatouage?
Mais c'est un handicap, c'est une chose qui met à risque la santé dès qu'il est fait.
Ah
oui. Il faut fort assez pour le supporter. Moi, je n'ai pas de tatouage.
On ne demandera pas, mais...
Il faudrait que les femelles aiment les tatouages aussi.
Il faudrait que les femelles, non pas qu'elles aiment les tatouages, puisque vous avez dit que c'est pas une beauté, mais fassent confiance au fait que le tatouage est une preuve de santé physique. Ou en tout cas, peut-être on pourrait imaginer que si le tatouage est extrêmement douloureux, c'est une preuve, en cela. Mais il y a, alors, vous pourriez utiliser une autre théorie sociobiologique pour le tatouage, c'est que dans la compétition intrasexuelle entre mâle et femelle, d'une certaine manière que la femelle voit que le mâle est capable d'investir au point de laisser par exemple sa propre marque, Nicole, je t'aime, etc., est un investissement suffisant pour l'encourager à investir à son tour. Ça pourrait être un ou bien une exigence de la femelle pour éviter évidemment des rivales possibles, etc. Mais là, on entend des théories, moi je ne me sens pas toujours très à l'aise parce que je trouve qu'elles appauvrissent tellement les choses que c'est un peu dommage. Quoi. Mais si ça, on peut oublier l'imaginaire en disant que le tatouage est un effet. Mais toujours est-il que donc, pour la sélection naturelle, ça donne finalement, la sélection sexuelle, ça donne un très joli truc, c'est que finalement, une femelle sensée a intérêt à prendre le mâle le plus handicapé possible. C'est pas à rechauffer n'importe comment, il ne faut pas qu'il manque la moitié. Alors, il y a des choses par exemple que les femelles n'aiment pas. Les asymétries, par exemple, elles n'aiment pas. Alors, être trop asymétrique, ça c'est bien que ce n'est pas choisi parce que ça signifie trop de stress dans le développement. Donc les femelles sont assez. Toujours dans l'explication socio-biologique, etc. Toujours est-il que ce qui m'importe chez Zahavi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ce qu'il dit. Et là, c'est pour ça que ça va attirer mon attention et que je me suis dit, je vais aller le voir, parce qu'il y avait cette petite phrase-là qui disait, finalement, les cratéropes ont résolu le problème qu'ont rencontré les pionniers du kibbutz. Alors, je trouve que c'est intéressant, parce que quand un oiseau est observé par un éthologue israélien, il devient un pionnier du kibbutz. Quand un oiseau est observé par un anarchiste russe, il devient un anarchiste russe. Ou par un malthusien darwinien anglais, il peut devenir le pire des malthusiens, c'est intéressant. Mais chez Zahavi, c'est une métaphore, et c'est une métaphore qui n'est peut-être pas fausse. En tout cas, c'est des modèles qui permettent de commencer à donner du sens au comportement. Alors, quel est le problème des pionniers de kibbutz? Selon Zahavi, qui connaît bien les kibbutz, hein, donc il a été lui-même en kibbutz, et ses fils sont dans des kibbutz, et il a fait l'histoire du kibbutz par curiosité, donc c'est un mec très traditionnel, hein, Zahavi. C'est incroyable, il respectait énormément de traditions. Toujours est-il que ce qu'il raconte du kibbutz, c'est les principes égalitaires qui ont présidé à la fondation des kibbutz, à l'organisation des premiers kibbutz, qui sont moins respectés maintenant, mais qui étaient hyper respectés au début, et ça j'ai pu les vérifier en rencontrant des gens dans des kibbutz, dont un professeur de philosophie belge de 80 ans, qui est dans un kibbutz de Jérusalem, le merveilleux bonhomme, qui est devenu prof de philo en commençant comme berger dans le kibbutz à 18 ans, en venant de Belgique, de Bruxelles. Il l'a quitté juste après la guerre, il est devenu berger, et pendant toutes les heures, il devait garder les moutons, il ne devait rien faire du tout. Il a vu de la philo, et puis il a commencé à passer des examens comme ça, à distance. Il est devenu prof de philo au bout d'un temps, contre les d'ailleurs les principes d'égalité du kibbutz. Il m'a dit que ça a été une des difficultés. Mais les principes d'égalité du kibbutz, c'est tout le monde doit être égalitaire, tout le monde doit participer à toutes les tâches, etc. Or, les arabes, comment pouvez-vous, d'une certaine manière, vous faire remarquer par les autres, obtenir de la considération, etc., si l'égalité stricte est demandée? Vous ne pouvez pas avoir de l'argent, vous ne pouvez pas posséder des choses, vous ne pouvez pas revendiquer d'aller justement enseigner de la philosophie sur de la philo, puisque ça va être évité dans les premiers kibbutz, ça va être évité. Eh bien, les arabes, la compétition étant interdite en quelque sorte, mais elle va quand même s'installer. Et elle va s'installer dans la coopération. Et elle va s'installer par le mode de la coopération, puisque la coopération seule permet d'entrer en compétition. Et ça donne quoi? Ça donne qu'en fait, dans ce qu'il raconte, dans les kibbutz, les gens entraient en compétition pour être altruistes et coopérer, pour aider les autres, pour donner des services, pour se dévouer, etc., etc. Et donc la valeur d'un individu qui lui permet d'être en compétition avec les autres pour affirmer une valeur, un prestige, ce que vous voulez, je crois que le mot prestige peut-être correspond bien, va se passer par le biais d'une compétition pour pouvoir coopérer. Eh bien, vis-à-vis, les cratéropes ont inventé, dans le cours de la sélection naturelle, ce mode de résolution du dilemme, qui n'est pas le même que dans le kibbutz, parce que là, il n'y a pas une contrainte imposé par une organisation interne, qui est un dilemme entre eux. Si nous coopérons, nous nous en sortirons. Si nous entrons en compétition, nous allons nous affaiblir, parce que la compétition stresse les individus, les abîme, les blesse, les met en danger, etc., etc. Et donc, comment réguler le besoin de compétition entre les individus au sein du groupe, dans une compétition extra-groupe, donc intergroupe si vous préférez, avec le besoin à la fois de limiter la compétition au niveau du groupe lui-même. Eh bien, utiliser la coopération dans la compétition était le moyen de résoudre le dilemme. Plutôt que de se battre et de se cogner, on trouve des théories de Conrad Lorenz, etc., qui étaient des théories qui montraient que les animaux se retenaient de manifester toute la violence pour éviter justement que les liens sociaux ne soient affaiblis ou que le groupe ne soit affaibli.
Oui, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Par rapport à l'heure, ça inclut la discussion.
Non, la discussion ce sera après le.
On la lancera juste
avant. On la lancera.
D'accord.
Oui, moi je vous avais préparé un écran. Là, on a vu avec Vincent que la coopération mène à la compétition, tout ça. Ici, c'est plutôt la prédation se transforme en coopération. En fait, on retourne dans les micro-organismes, dans les plantes et les micro-organismes. Et c'est très loin de nous, et en fait, ça paraît assez proche. Il y a 4,5 milliards d'années, il n'y avait pas d'oxygène sur Terre. Donc l'énergie, on l'a tournée de l'hydrogène. Et c'est les bactéries sont mortes. Il y a toutes les différentes sortes de bactéries qui sont apparues. Au début, elles étaient anaérobies, c'est-à-dire qu'elles ne prenaient pas de l'énergie d'oxygène, d'hydrogène. Et puis sont apparues il y a 3,2 milliards d'années les bactéries photosynthétiques dont je vous ai parlé, qui ont su capter la lumière et transformer le CO2 en O2. Elles ont su prendre l'hydrogène. H2 était dans l'atmosphère, était épuisé, et donc elles ont trouvé une source inépuisable d'hydrogène et d'énergie, c'était l'eau. Et donc, en captant l'eau et le CO2, elles ont réussi à faire des sucres, et donc à se constituer. C'est l'invention de la photosynthèse, les bactéries photosynthétiques ont fait ça. Mais elles ont libéré de l'oxygène, c'était un déchet d'oxygène. Et elles ont tellement pullulé, parce qu'il y avait beaucoup d'eau, que l'oxygène s'est répandu
Et l'oxygène est très toxique pour les cellules, même pour nous. C'est pour ça que la vitamine C, c'est un antioxydant. Ça protège nos cellules. Et donc l'oxygène s'est répandu partout, s'est stabilisé à 21%, et les bactéries anaérobies se sont trouvées affaiblies. Et donc il y a eu comme ça une sorte de compétition, on va dire, entre et les bactéries aérobies qui utilisaient l'oxygène sont apparues, les bactéries photosynthétiques, les bactéries anaérobies qui se trouvaient un peu affaiblies, etc. etc. Et donc on avait une sorte de bain comme ça, de diversité. Et à un moment, eh ben, les bactéries anaérobies et les bactéries aérobies coexistaient. Et il y a eu une relation de prédation. Donc les bactéries anaérobies mangeaient les bactéries aérobies. Et vers moins 1,5 milliard d'années, il y a eu la naissance des cellules, des eucaryotes, des cellules à noyau, c'est-à-dire des cellules qui composent tous les êtres vivants, dits supérieurs, multicellulaires, nous, les plantes, les champignons, etc. Et donc, on a les bactéries, en gros, et les cellules à noyaux, les organismes à cellules à noyaux. Et ces cellules à noyaux, on remarque que dedans, il n'y a pas seulement des noyaux, il y a des organismes. Et dans ces organismes, il y a ce qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries, c'est un peu le moteur de la cellule, c'est ce qui fournit l'énergie. Et si on regarde bien, dans ces organismes, il y a deux membranes. Et donc, il y a une scientifique américaine, Lynn Margulis, c'est-à-dire qui vient de mourir il y a peu, il y a deux mois, je crois.
Un jour, trois semaines, quoi, non ? Quand on se parle au téléphone.
Ouais, mais il me semble que c'était il y a deux mois. Je ne sais pas. Donc, elle a proposé en 1967, mais elle a repris des observations d'un Français qui s'appelle Louis Pontier en 1910, je crois, qui propose l'hypothèse suivante, c'est que l'invention... Donc les mitochondries servent à respirer, à la cellule à respirer. C'est le moteur qui fait que la cellule utilise l'oxygène et quelque chose qui est toxique, elle l'utilise finalement pour vivre. Et donc ce moteur qui a été une invention extraordinaire dans l'évolution du vivant, en fait c'est une endosymbiose. Je vous parlais d'ectosymbiose. Là ici c'est une symbiose entre une bactérie qui au cours de l'évolution a phagocyté des bactéries aérobies. Et finalement, à un moment, la bactérie qui était mangée, elle s'est fait piéger, et puis elle a résisté. Elle s'est dit, non, ben, j'ai pas envie d'être dissous, je résiste. Et on passe un pacte, c'est-à-dire que tes déchets, ben, je vais les manger dedans, et moi, je te fournis un peu d'énergie. Et d'une relation de prédation, d'un piège, est née finalement une relation symbiotique. Et ça a donné lieu... à l'invention de la respiration, et donc ça a donné lieu à l'explosion du vivant. Une fois que l'oxygène était présent partout sur Terre, et qui était toxique pour les cellules, et bien, grâce à cette invention, on a eu une diversification du vivant, des cellules à respiration. Et mieux que ça, chez les plantes, il n'y a pas seulement des mitochondries, il y a aussi des chloroplastes, c'est aussi un petit organite qui est le siège de la photosynthèse. Et pareil, de la même manière que les mitochondries ont été ingérées à un moment, elles sont devenues symbiotiques, les chloroplastes étaient des bactéries, comme je l'ai dit, photosynthétiques, qui ont été ingérées et qui ont passé un pacte et qui ont permis à ces cellules d'utiliser l'énergie solaire pour fabriquer des sucres. C'est devenu les plantes. Donc les plantes, toute l'invention des plantes, si je puis dire, l'invention du vivant, tout ce qui est plante, ça a été à la base une histoire de coopération d'endosymbiose. Et donc à partir de cet exemple assez simple, bon assez connu, je pense que beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous le connaissent, ou en ont entendu parler, on a une coopération, une prédation qui se transforme en coopération. On a encore une fois, à travers tous ces exemples qu'on a vus ce soir, une relation... pas si clair que ça, disons, changeante entre coopération et compétition. Et la même chose, rapidement je termine sur les lichens. Les lichens sont une sorte de d'organisme qu'on classe dans les champignons. Mais en fait, c'est une association entre une algue et un champignon. Et c'est une association, donc c'est un organisme qui a deux natures, mais enfin, qui n'est qu'un, mais qui a deux natures. C'est très spécial. L'algue permet la photosynthèse et donne aux champignons les sucres dont elle a besoin. Et le champignon, en échange, lui, il n'arrive pas à photosynthétiser, Donc il prend en son sein l'algue et il la protège. Il la protège grâce à un mucus qui est très résistant et qui permet au lichen de sortir de l'eau et d'aller dans des environnements extrêmement difficiles. J'ai relevé ces chiffres, mais il y a des lichens qui résistent 18 heures à moins 183 degrés, ou plusieurs heures à 100 degrés, ou même dans l'Himalaya à 7400 mètres, donc ce qui fait que c'est la plante la plus haute du monde. Donc, grâce à cette entraide, et je dirais même plus loin, à cette fusion, on va au-delà de la symbiose, on est dans la fusion, et donc deux organismes, c'est-à-dire, comment dirais-je, la coopération ici est intéressante parce qu'elle permet d'innover. Et souvent on entend dire que la compétition, ça permet l'émulation, ça permet d'innover, d'aller plus loin, de se dépasser. Ici vraiment, je trouve, on a une illustration que la coopération permet d'innover, d'aller plus loin, de se transformer. Et le prédateur au début qui mangeait, pour survivre, parce qu'il est anaérobie, pour survivre avec l'oxygène, prendre sur lui, se transformer et devenir un autre, coopérer, devenir un autre pour survivre. Et donc ça, la coopération, pour moi, avec cet exemple, on le voit bien, c'est un dépassement de soi. Et donc là, voilà, ça c'est des exemples très très généraux. On peut voir de la coopération à tous les stades de l'évolution du vivant. L'invention, là ici on a vu de la respiration, l'invention des plantes, l'invention de la sexualité, qui fait que deux êtres coopèrent, se mélangent, fusionnent pour donner autre chose. L'invention des multicellulaires, des cellules coopèrent à plusieurs, font une membrane et deviennent finalement un autre être. Qui prend son autonomie et qui va voilà, qui naît, enfin, c'est un autre qui naît de la coopération. Donc l'invention des multicellulaires, l'invention des sociétés humaines ou des sociétés animales, on a à tous les stades que les scientifiques appellent les coopérons, donc c'est des stades de voilà, des stades de l'évolution du vivant qui sont importants. On a la coopération qui est le facteur clé. Voilà, ça c'était pour vous montrer un petit peu l'éventail du vivant. Moi j'ai pris le rôle du botaniste, moi je ne suis pas du tout botaniste, je suis plus dans l'éthologie, mais je me suis fait un peu violence pour aller rechercher ces exemples et montrer vraiment que comme Prophète Kim a dit dans l'entrée, lui, il est allé voir des exemples des micro-organismes aux fourmis, aux sociétés animales, aux sociétés d'insectes, aux sociétés dites primitives, barbares, du Moyen-Âge et évoluées. Je ne sais plus s'il dit évoluer. Mais donc, il est allé voir dans tout cet éventail du vivant pour montrer que la coopération est un facteur d'évolution. On a un petit tableau, on a préparé un tableau pour amorcer la discussion. Est-ce que je peux passer le mot avant de dire ? Comme ça, en mangeant.
On va vous faire réfléchir, enfin, travailler pendant le repas.
Oui, oui.
Oui, je voulais poser une question sur la hiérarchie, je n'ai pas besoin.
Je reviens.
Est-ce que donc elle a été apparemment créée par l'expérimentation elle-même ? Donc, est-ce qu'elle est réversible ? Est-ce que quelqu'un étudie, donc une fois que l'expérimentation est finie, est-ce qu'elle est réversible ou est-ce qu'elle s'installe pour la durée ?
Alors, elle peut s'installer de manière durable et elle peut aussi être réversible parce que les babouins sont très créatifs, peuvent faire des alliances. Alors, donc, je ne dirais pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de hiérarchie du tout. Hein. Ce que je vais montrer, c'est que je pense qu'elle est deux fois plus tranchée et rigide et caricaturale quand elle est installée par les chercheurs. Et que donc les babouins ont des hiérarchies probablement, mais plus souples. C'est ce qui est montré. Alors, il faut elle peut être modifiée, ça, si deux babouins font une alliance contre un troisième, c'est des phénomènes assez fréquents, ils sont extraordinairement bons dans la manipulation. Hein, les babouins, c'est-à-dire utiliser un tiers pour pouvoir agir sur un second partenaire. Et donc, des renversements d'alliance, on peut en avoir. En plus, vous n'avez pas, par exemple, les babouins, pour ça, sur les Schtroumpfs, c'est une hiérarchie qui n'est pas stable du tout pour une autre raison. C'est que souvent la hiérarchie, ça c'est Bruno Latour qui le disait, elle dure que quelques jours. Mais peut-être que celle que les chercheurs installent est plus stable. Ça, je n'en sais rien. Parce que comme ils ne reconnaissent pas qu'ils l'avaient installé, ils vont pas être interrogés. Il y a aussi un facteur qui va compromettre la possibilité qu'une hiérarchie s'installe, mais ça on ne le savait pas dans les années 60, c'est pour ça que ça n'a pas été revenu comme argument, c'est que dans les années 60, on était persuadé que les mâles et les femelles restaient tout le temps dans la même troupe. Et donc, ils étaient des troupes sales. Et en fait, c'est quand on a observé pendant des années, et c'est donc, quand Telmarouët qui a eu la première intuition de ça, c'est qu'ils ont constaté que les mâles s'en allaient, émigraient. Et qu'en fait, les mâles ne restent jamais très longtemps dans une troupe. Ils restent 2-3 semaines à 2-3 mois, et puis ils vont dans une autre troupe. Et donc, ils font des circuits, et ils vont de troupe en troupe, mais ils reviennent dans la première à un moment donné. En général, ils ne s'accouplent pas dans leur troupe natale. C'est un mécanisme d'exogamie, si vous préférez. Mais comment voulez-vous assurer une hiérarchie stable si vous ne restez pas là? Et en fait, dans l'autre champ, les femmes auront une toute autre hypothèse sur la hiérarchie. Elle dira, il y en a une. Mais d'abord, elle est compliquée, c'est pas le même pied, etc. C'est généralement ceux qui se débrouillent très mal dans les conflits qui ont plus accès aux femelles, qui sont plus toilettés, etc. Ceux qui perdent un conflit sont toilettés, sont privilégiés par le lieu de la nourriture et des choses comme ça. Et donc, c'est pas du tout clair. Et quand elle dit en fait, ceux qui se comportent comme des mâles dominants très caractériels, ce sont des babouins qui sont expérimentés socialement et qui essayent de s'intégrer dans la troupe. Et comme ils ne savent pas comment faire les tapes sur tout le monde, ils font peur, et comme ils font peur, on essaie de les apaiser, ils ont fait ce qu'ils demandent. Vous voyez, c'est le premier point. Une autre expérience que je peux vous raconter, qui est très jolie, ce n'est pas une expérience, c'est un accident qui est arrivé dans une troupe de babouins, qui était observé par un chercheur qui s'appelle Robert Sapolsky, qui est à l'origine un neuro-endocrinologue, intéressé par les phénomènes neurophysiologiques, et qui passe ses vacances à observer des babouins en Afrique. Je ne sais plus exactement dans quel pays, je pense que Kenya, oui, c'est au Kenya. Vous cherchez sur le net, Sapolsky, Kenya, babouin, vous trouverez tout de suite des articles en ligne, très intéressant. Et il y a une vingtaine d'années d'ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une des troupes de babouins, donc il fait ça pendant ses vacances, et il mesure les taux de testostérone et des choses comme ça, parce que c'est ça qui l'intéresse chez les babouins, c'est de voir s'il y a des corrélations, testostérone, dominance, etc. Ça m'est comme un petit. Et puis, il y a quelques années d'ici, il a observé quelque chose qui était très étonnant, c'est que dans une troupe des babouins allaient souvent voler de la nourriture dans les poubelles des lodges pour touristes. Et ce qui se passait, c'était une troupe très hiérarchisée, raconte Sapolsky, et où les mâles dominants étaient extrêmement caractériels et empêchaient, quand on voit qu'il y avait une troupe de source de nourriture, ils empêchaient les autres d'y aller. Et cette troupe est allée se nourrir dans les poubelles, ils ont trouvé de la viande. Et seuls les dominants en ont mangé. Et la viande était contaminée par de la tuberculose. Et quelques temps après, tous les mâles qui avaient mangé cette viande-là sont morts. Et les autres qui n'avaient pas eu accès sont restés vivants. Et donc la troupe a été carrément décapitée de tous les foramas. Et il dit que s'est installée une toute autre ambiance dans la troupe à partir de ce moment-là. Et que c'est un tout autre style relationnel qui s'est imposé, où la dominance était beaucoup moins perceptible et où les relations hiérarchiques étaient tout à fait différentes de d'habitude. Mais ce qui m'a semblé surprenant, c'est ça que je vous invite à réfléchir, et il dit ça, c'est un mystère, on ne le comprend pas. Comme les mâles quittent la troupe, comment se fait-il que cette ambiance se soit maintenue, alors que d'autres mâles sont venus et auraient pu faire réintégrer à la troupe des modèles plus anciens? Alors il dit, première hypothèse, c'est les femelles qui imposent l'ambiance. Mais lui, je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'il explique pas très bien, il dit, j'ai des doutes quant à ça. Je trouve que ces observations ne lui permettent pas de le penser. Mais ça, je ne suis pas sûre, parce que tout ça, c'est une interprétation. Donc peut-être qu'en effet, les femelles imposent une certaine ambiance. Mais on peut faire une hypothèse complémentaire, c'est que les mâles qui vont de troupe en troupe, ils choisissent les troupes s'ils veulent rester ou s'ils ne veulent pas rester. Il n'est pas possible que ce soit des mâles plutôt paisibles, etc., qui auraient plutôt tendance à aller dans cette troupe-là, et que les mâles un peu excités et qui ont envie de chercher la bagarre, ils restent plutôt dans des troupes où les choses se passent différemment. Donc on peut faire toutes les hypothèses. Donc pour montrer que toutes ces notions de hiérarchie, dominante, de compétition, tout dépend du chercheur, des accidents, parce que c'est vraiment une histoire, des accidents historiques, de la manière dont ils vont gérer l'histoire, etc., etc. Et donc finalement, on peut presque rien affirmer, mais tout ce qu'on peut faire, c'est ouvrir notre imaginaire et faire des hypothèses. Et se dire peut-être que, en sachant qu'un jour, peut-être, un chercheur va vous dire, ah ben tiens, cette hypothèse-là, vous avez dans un article, je l'ai envie de dire, elle s'avère pertinente pour mes babouins, ou pour mes oiseaux, ou pour mes langures, etc., etc. Je ne réponds pas exactement à votre question, en fait, je la complique.
On avait dit qu'il y avait des milieux de stress, de super stress. Donc, c'est peut-être aussi des paramètres qui appliquent des variables. Parce qu'une troupe qui a vécu une situation moins stressée peut s'énerver dans une situation plus tendue ou, à contrario, trouver une certaine paisibilité. Des exemples de chercheurs qui observaient des animaux au zoo, c'est quand même des situations particulières. Il y a peut-être aussi l'ennui. Le fait que tout le monde est l'un sur l'autre,
la promiscuité,
c'est sont toutes les variables qui donnent plus de stress ou moins de stress parce que la nourriture n'est pas tout le temps. Donc,
les babouins vont dans des poubelles, c'est plutôt un bon indicateur qu'il y a beaucoup de stress en plus, par exemple.
Le stress me semble des paramètres.
Parce que ça veut dire qu'ils sont confrontés à des humains qui doivent les considérer comme de la peste et qui doivent certainement leur tirer dessus à coup de fusil. C'est presque téléphoné comme histoire parce que c'est comme ça qu'on se passe avec les babouins. Quand ils volent dans les poubelles, c'est une mauvaise signe pour la troupe. C'est très très mauvaise signe. C'est une signe qu'il y a trop d'émissions. Oui.
Je remarque là rejoint une interrogation que j'ai par rapport à ce que vous venez de dire concernant les mâles, les hiérarchies, etc. Est-ce qu'on a des observations de groupes de babouins face à un danger, face à un ou des prédateurs, et de l'organisation qui se produit à l'intérieur du groupe vis-à-vis de ce danger réel?
Alors, la question, je voudrais d'abord faire quelque chose qui m'a amusé, c'est que je trouve dans les livres de primatologie, parce que j'ai fait l'histoire de la primatologie depuis les années 60, en tout cas quand elle s'est vraiment installée sur le terrain. Alors, vous trouvez toute une série de descriptions, notamment dans un livre d'Alison Jolie qui refait toute l'histoire de la primatologie des dernières années, 62, 63, 64, et elle dit, quand la troupe de babouins rencontre un prédateur, ils se mettent en formation serrée, les mâles se mettent à l'extérieur pour protéger, mettre les femelles et les enfants au milieu, et les mâles dominants assument donc le rôle de défenseur et de leader de la troupe. Je me trouvais tellement Roel qui dit, bah, mes babouins, pas tellement en fait. Ils ne sont pas très héroïques. Quand ils rencontrent un prédateur, chacun s'en trouve pour son propre compte, c'est-à-dire les mâles devant avec leurs plus longs blancs et les femelles derrière qui traînent les petits. Alors donc, manque flagrant d'héroïsme d'un côté, de l'autre côté, vous avez la... Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire en fait qu'il y a eu visiblement des biais dans les premières recherches parce qu'ils étaient tellement persuadés par le dominant, leader, etc. que c'était ça. Or, en fait, ce qu'on a découvert pour ces babouins-là, donc je parle de tous les babouins sauf les anadrias qui vivent autrement. Donc on ne parle pas de ceux-là. Les babouins anadrias vivent dans ce qu'on appelle des harems, même si je n'ai pas le terme, c'est le terme commode qui nous permet d'aller vivre. Donc autrement, les autres babouins, c'est des groupes multisexes, quoi. Je viens d'entendre ça, mais je pense qu'on en fait deux, mais bon, quoi que. Toujours est-il que donc, c'est des groupes mélangés. Et ce que disait Thelma Roel, elle, par exemple, c'est que pour trouver de la nourriture, c'est toujours les femelles qui sont devant et qui guident les mâles de la troupe. Pourquoi? Ou en tout cas devant, ou en tout cas c'est elles qui guident. Parce qu'en fait, comme elles sont nées sur le territoire, elles savent où il y a à manger. Et les mâles n'interviennent que dans les périodes de grande disette. Parce que là, il faut sortir du territoire, et comme eux sont plus audacieux et curieux, ils vont oser aller au-delà des limites. Donc ça, il y a une différence de personnalité. Mais donc, ça veut dire que c'est les femelles qui guident les troupes pour se nourrir, parce qu'elles savent que là, à cet endroit-là, il y a des dattes à cette époque-ci de l'année. Là, il n'y a plus d'eau, là-bas, ça ne fait rien, il y en a encore là-bas. Les grands-mères savent ça. Je veux dire que, alors que les mâles, ils viennent d'arriver pour la plupart, ou ils sont venus, mais ils n'ont pas arrivé. Donc leur mère ne leur a pas appris. Ils sont nés ailleurs. Alors ça, c'est déjà un premier point. Donc, ce qui veut dire que, face aux prédateurs, d'abord, ça dépend comment la troupe s'est constituée. Et puis, tellement elle va revenir sur ce qu'elle disait, parce qu'elle me disait, bon, c'est vrai que j'y vais un peu vite en disant que chacun s'en fout, elle dit, ça dépend du prédateur. S'ils savent qu'ils peuvent faire face, les mâles vont se mettre devant et protéger. Mais s'ils savent qu'ils ont affaire à plus fort qu'eux, ce ne sera pas le cas. Et là, chacun s'enfuit, et c'est chacun pour soi. Donc, tout dépend du prédateur qu'ils vont rencontrer. Alors, qu'est-ce qui faisait penser qu'il y avait des organisations comme ça, un petit armée et tout, c'est qu'en général, les babouins traversent les routes. Et c'est là que les observateurs les voient. Et ils traversent les routes en file indienne, par exemple. Et donc, quand ils voient à ce moment-là l'observateur, et peut-être qu'il y avait en effet des réactions qui pouvaient faire penser que les mâles protégeaient. Peut-être aussi que les observateurs étaient considérés comme prédateurs. Ce qui est étonnant, parce que les babouins, c'est pas très grand, hein, c'est petit comme ça. Mais peut-être que les observateurs étaient considérés comme des prédateurs, pas si dangereux que ça. On n'en sait rien. Et donc, de nouveau, je vous dis, ça dépend de l'observateur, et justement, ça dépend aussi de la troupe de Bamoine, mais l'organisation type armée, comme on l'a décrit dans les années 60, je crois que plus personne n'y croit.
Et on sait combien d'années d'existence de l'espèce Bamoine, combien de milliers ou millions d'années d'existence de Bamoine, dans ce forcément.
Non, ben, je ne sais pas tout ça, j'ai oublié ça.
Mais je voulais rebondir, la question du stress est intéressante, parce que dans cette, on a parlé de la comparaison entre Kropotkin qui est allé observer en Sibérie, là où il fait très froid, les conditions sont difficiles, et Darwin qui a fait le tour aux Galapagos dans un endroit où il y a voilà, tropical, où il y a pléthore d'espèces, des conditions de vie.
Bon, le climat n'est pas rude.
Voilà, le climat n'est pas rude. Lui, il a observé la compétition. Kropotkin a observé les espèces s'entraident, et celles qui ne s'entraident pas, elles meurent. Et on sait bien, enfin c'est intuitif, qu'on rassemble un groupe quand il y a un ennemi, il y a un grand méchant loup. Et ça, les dictateurs le savent. On,
et
on crée
et
un
la
méchant
mythologie de l'Amérique pour... avec les Martiens et la guerre.
Voilà,
c'est exactement ce qu'il y a même des philosophes américains qui disaient, nous avons besoin de nous créer un ennemi parce que nous ne pourrons pas nous créer une nation. Nous sommes en train de nous perdre comme nation si nous n'avons pas d'ennemi.
Alors ça reste un mystère, je continue à chercher. D'ailleurs, je me suis intéressé aux jeux coopératifs quand on éduque les enfants. Plutôt que les faire jouer au Monopoly, les faire jouer à des jeux coopératifs. Et j'arrive pas à trouver, en tout cas c'est rare, j'en ai trouvé très peu, des jeux qui n'utilisent pas le grand méchant pour faire coopérer les enfants. On les met en situation, et souvent, non, souvent, pas tout le temps, on crée un grand méchant pour faire coopérer les enfants. Ça, je trouve un thème assez intéressant. Bon, je ne peux pas en dire plus, ça fait partie de mes simulations et de mes recherches.
Mais même le jeu diplomatique pour adultes, c'est un jeu où on a besoin d'un ennemi pour coopérer. Hein.
Mm-hmm. Ce serait le stress suprême chez les humains, c'est la menace extérieure. Plus que, je sais pas, mais que les idées.
Il y a les deux quartiers.
C'est pas les aides ou le climat. Ou le...
Alors, je vois dans l'école des quartiers, souvent, il se crée pour contrer un danger ou un stress qui vient de l'extérieur. Donc, on crée une coopération pour répondre à.
Et souvent, quand il n'y a plus la menace, la coopération se délite comme ça. Ça c'est observé, mais ce n'est pas forcément une règle universelle du vivant. Quoi.
En tout cas, c'est un moment de danger pour les groupes. Et ils le savent quand ils sont politiquement bien informés. Ils savent que si le danger disparaît, il va falloir trouver des ressources inhabituelles pour continuer à se maintenir.
C'est-à-dire qu'en d'autres termes, la coopération intra-groupe favorise la compétition intergroupe. Donc la compétition et la coopération, ça dépend de quel niveau, de quelle échelle. Parce que si on se place dans le groupe, on voit que de la coopération. Si on dézoome, on voit de la compétition. Et on peut voir de la coopération entre les groupes. Enfin, c'est très... Tout dépend de l'angle de vue. Tu l'as vraiment dit d'où on se place.
Ben, pour comprendre ce qu'il y a de la coopération, c'est la seule suffisance. C'est le crayon de la c'est la donc, ça veut dire que tu n'as pas que la coopération interne qui est optimale. C'est le contraire de la lutte contre la richesse des nations. Donc, ce serait de telle manière que tout soit optimal pour rendre l'entité heureuse par le bon paroté. Donc, c'est sûr qu'après, ça va être.
Oui, mais Kropotkin, il a surtout insisté sur la coopération entre espèces.
Dans la
au sein d'une espèce, c'est pas entre espèces, je confonds toujours. Mais il a oublié en fait un grand pan de coopération. Mais au niveau scientifique, il a porté beaucoup, mais il a quelques petits oublis.
Enfin, c'est nouveau, tu dis, il est du Nord, mais il est aussi dans la première étape
de la recherche.
Et l'autre, il est anglais avec.
Ouais, assez bizarre.
Mais les deux,
les
conclusions auxquelles j'arrivais, moi, c'est si Kropotkin n'avait pas été anarchiste, c'est qu'il aurait vu ce qu'il avait vu en Russie. Mais si Darwin avait été en Russie, il est probable que Darwin aurait vu plus de coopération, mais peut-être pas autant que Kropotkin. De la même manière que je peux dire que Zahavi pose des questions fantasques à ses oiseaux, probablement parce qu'il est israélien, probablement parce qu'il est en dehors des circuits académiques. Et ça, je lui ai posé la question, et il m'a répondu, c'est marrant. Je lui ai posé la question, je ne vais pas arrêter de l'emmerder sur le terrain avec cette question-là, en lui disant, est-ce que le fait que vous soyez en dehors des circuits académiques, ça vous a offert des espaces de liberté mentale, etc.
Vous prenez donc, je pense que vous voulez dire, je comprends rien à vos questions, etc.
Et 20 ans après, enfin, il a répondu à ma question dans un article où il dit, heureusement, je me suis occupé de conservation de la nature, Et heureusement, j'étais en dehors des cercles académiques, on n'a pas pu me faire changer d'avis sur mes cratéropes. Et ça, je pense que c'est des choses qui vont jouer. Donc, le fait d'être dans une situation politique particulière, d'avoir des certaines, vous autorise à poser certaines questions, mais ne peut pas contraindre le terrain à répondre à ces questions-là si le terrain n'est pas prêt à y répondre.
Attendez, on ne va pas commencer le débat maintenant, sinon on ne mangera pas.
Et le tableau.
Donc, Pablo, présente ton tableau, et puis on part, on va manger. Et puis on a le débat. Donc, je vois, ça c'est de la collaboration avec Gauthier, parce que c'est une belle image que Gauthier nous avait présentée.
En fait, c'est un tableau que tous les biologistes et écologues ont eu dans leur cours. Et ça montre un petit peu une classification assez sommaire des interactions qu'il y a entre les êtres vivants. Prenons l'espèce A et l'espèce B. Si dans leur interaction, les deux en tirent un bénéfice, on appelle ça la coopération ou la symbiose. La différence, c'est la coopération n'est pas obligatoire, la symbiose est obligatoire dans le sens où si, par exemple, si A disparaît, c'est une symbiose obligatoire, B disparaît aussi. La coopération n'est pas obligatoire. D'accord, ça, jusque-là, ça va. Lorsqu'une relation est avantageuse pour A, et finalement neutre, on va dire, pour B, est-ce que vous avez une idée de comment ça s'appelle? C'est comment ça lisse? Un exemple, plutôt. Bon, il y a l'exemple des... Enfin, ça, c'est mon domaine, c'est les fourmis. Il y a des petits coléoptères qui vivent dans les nids de fourmis, dans les fourmilières, et qui sont là, c'est un peu des squatteurs, ils font rien du tout aux fourmis, et ils bénéficient de la chaleur, de la protection des fourmis, il y a parfois un petit peu de...
Est-ce que votre exemple du boulot, serait le boulot et le sapin qui l'un donné à l'autre?
C'est plutôt avantage réciproque. Et encore,
on voit quel est l'avantage du boulot de donner.
Les échanges sont dans les deux sens. Ils ont montré que quand on fait de l'ombre au boulot, le Douglas transfère aussi des carbones, des sucres. Donc là, ça dépend, je dirais, mais voilà. Encore une fois, ça dépend des stages de vie, des conditions de vie, de la densité, de plein de choses. Et on peut passer des plus à moins à zéro très facilement. Et donc, c'est une classification assez arbitraire, mais didactique, on va dire. Ça s'appelle l'amensalisme. Un exemple, une boîte de pétri, le fameux Fleming qui découvre les antibiotiques. Et bien, c'est ça, un champignon, il pousse, et en fait, il va tuer les bactéries autour de lui. Donc, c'est ça, le champignon pousse, il tue les bactéries. Ou un arbre qui fait de l'ombre à des petits... des petites espèces héliophiles qui cherchent le soleil, c'est de la mensalisme.
Et pourquoi est-ce qu'il y a un arbre qui pousse?
Le grand arbre qui pousse, lui, il s'en fout qu'il y ait des petits qui n'en aient pas, et les petits, ils souffrent de l'ombre du grand.
C'est pourquoi est-ce que tu mets zéro à ce moment-là?
Parce que là, le grand arbre, il y a les petits n'ont aucune influence sur le grand.
Tout à fait, oui, d'accord.
Alors ça, j'ai eu du mal à trouver un exemple de coexistence. Voilà. J'en ai trouvé, mais oui, parce que notre imagination est... Et braqué sur coopération et compétition. Mais en fait, j'en ai un en Guyane, j'étudiais les fourmis en Guyane, et à un moment, on fait des études sur le cycle nuit-jour, et on a remarqué qu'il y avait sur le même arbre des espèces arboricoles qui vivent la nuit, et puis quand le soir tombe, elles rentrent, et puis il y a l'espèce nocturne qui sort et qui a le même territoire, et elles coexistent. Et nuit et jour.
Comme certains rapports interspécifiques, finalement.
Jusqu'à ce qu'on
regarde
mieux. Jusqu'à ce qu'on
regarde mieux.
Voilà.
À toutes les neutralités, moi, je crois vraiment.
Alors, ça s'appelle comment? Paradis. Ou prédation, on l'a vu. Et alors, celui-là.
Compétition.
Ouais. Bravo, oui. C'est la compétition. Écoute. Est coûteuse pour chacun des membres de l'espèce à élever. La compétition est coûteuse. Et pourtant, elle existe dans le monde vivant.
Non seulement elle existe, mais elle est complémentaire de la coopération de tout ce que vous nous avez dit.
Oui, moi je vois ça en fait comme le yin et le yang. C'est difficile de voir l'un sans l'autre et en même temps ils sont opposés. et ils se nourrissent l'un à l'autre, mais il faut encore voir les subtilités d'un passage à l'autre.
Voilà, moi je vous propose maintenant de passer à table, mais de vous quand même de vous inviter à réfléchir à tout ce que ceci vous a suggéré dans votre vie au quotidien et en particulier au travail. Je pense que, et on pourrait essayer vraiment de débattre là-dessus. Qu'est-ce que tout ceci peut nous amener à repenser ou à penser sur nos comportements de travail? Voilà. Bon appétit. Thank you.